Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme chaque lundi, 19h, 20h30. Alors on aime tous les sports hein, sur Mon Paris FM, et bien on va encore le prouver ce soir, puisque l'invité principal de l'émission est venu nous parler de MMA, c'est Eric Porra, que je salue. Bonsoir Eric, ça va bien ?
C'est Loïc.
Loïc, pardon. Ouais, ça commence bien. Loïc, voilà. Alors, c'est Loïc.
Bonsoir.
À la radio.
Ouais, c'est pas bonsoir, grave. Ouais, c'est pas
ça va Loïc, pleine forme ?
Impeccable.
Ouais. Alors vous êtes venu en voisin, hein ?
En voisin, en futur ouais. voisin, à côté de la rue Chevaleret, ouais. au 5 bis, 7 bis, rue du Chevaleret, un tout nouveau local qui va très prochainement ouvrir ses portes,
À la rentrée ?
À la rentrée, on sera déjà bien ouvert, mais j'espère ouvrir fin mai, début juin, j'aimerais bien.
Très bien, donc ça sera le menu essentiel de cette émission. On viendra aussi sur tous les faits importants de l'actu sportive parisienne, le basket, hein, et puis aussi le marathon de Paris. Et puis, il y a une tradition, c'est qu'on commence par l'actu foot. Hein. Vous aimez le ballon ?
Je regarde un petit peu. si, je regarde un petit peu. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan. J'aimais bien, je suivais le PSG, etc. Je suis parisien.
Bah, comme beaucoup,
mais...
hein.
Ouais, parce que bon, après, c'est pareil. Ah, il y a quelques Parisiens qui aiment Marseille, hein, quand
oui,
même.
Oui, après, on va nous dire que c'est mon Paris Saint-Germain.
c'est vrai. Mais sinon, maintenant, je suis une génération où je regardais le PSG avec. Encadré par Fernandez, etc. Il y avait Rai, il y avait tous ces gars-là.
On a presque envie de dire que c'était la meilleure époque, quoi. Celle du maillot du club de l'entité.
Ouais, avec George Weah, etc. C'était encore autre chose. C'était différent.
Très bien. Bon, nous, on va perpétuer une tradition. On retrouvera aussi notre ami Stéphane Dezenclos, hein, notre partenaire du quotidien du sport.fr tout à l'heure. Alors, je veux saluer celui qui est là pour nous faire l'actu foot pratiquement chaque semaine. C'est notre ami Eladji. Bonsoir, Eladji, ça va ?
Bonsoir, Philippe. Ça va et toi ?
Bon, tu n'auras pas d'opposition pour le foot aujourd'hui. Abou est en repos. Oui. Et puis, Antoine est en école de journalisme en stage. Donc voilà. Mais c'est pas bien grave. Hein.
Oui, c'est pas bien grave. Hein.
On va avoir une actu particulièrement dense. On va commencer quand même avec l'équipe de France, puisque la semaine dernière, après notre émission sur les Paralympiques, on a suivi tout de suite le match de l'équipe de France. Alors, on se disait, attention, méfiance. Bon, l'équipe de France s'est imposée 1-0, mais j'allais dire, voilà, elle a assuré l'essentiel. On ne peut pas dire que c'était un grand match par rapport au match gagné quelques jours plus tôt face aux Pays-Bas 4-0.
Elle a assuré l'essentiel, comme on disait. Bon, après, ce qu'on disait, en tout cas, du moins ce que moi je disais la semaine dernière, je pensais que la France allait leur mettre une déculottée en vue de ce qu'ils avaient fait aux Pays-Bas, aux Basques, et en sachant que là, ils jouent contre l'Irlande quand même. Voilà, Irlande qui sont beaucoup plus faibles que les Basques.
Accrocheuse quand même.
Oui, c'est une équipe accrocheuse, mais ça fait un moment, et c'est ce que Valentin disait, hein, c'est un match normalement facile, mais attention de ne pas tomber dans le piège du 1-0. Du 1-0, et c'était un match compliqué, 1-0, on est content. Bah là, c'est exactement ce que Valentin a dit. Ça a été un match compliqué. 1-0, avec l'arrêt miraculeux de Mike Maignan, un très grand super barré de Mike Maignan.
Qui prouve que c'est bien le meilleur gardien français actuellement. Hein.
Mais bien sûr, j'en doutais pas, moi. Ça faisait un moment que j'en doutais pas, et que je le réclamais même pendant la Coupe du Monde, malgré le fait qu'il soit blessé, etc. Mais sinon, ça fait un moment que je le réclamais, Mike Maignan. Et je pense qu'on l'aurait eu bien avant. Je pense que cette Coupe du Monde, on y serait allé au bout. Je pense honnêtement, mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà ce qui concerne l'équipe de France. Le problème, c'est exactement ça. Didier Deschamps n'arrive pas à innover. Contre les petites équipes, on arrive à chaque fois, c'est des 1-0. Ça va être des 1-0 compliqués. Dans le jeu, c'est pauvre. C'est vraiment
pauvre. Enfin, l'essentiel est fait.
Oui, l'essentiel est fait, mais moi je m'inquiète pour après, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on voit. Voilà, on voit une équipe de France, voilà, il marque sur un but de Pavard, voilà, un contre, il récupère le ballon, une frappe devant, c'est une action individuelle, c'est pas un but construit. Il y avait rien, il y avait pas de construction, il y avait pas d'animosité ou quoi que ce soit. C'est ce qui me fait peur pour la suite. Ouais. Voilà, clairement.
Bon, enfin, la suite, ça sera Gibraltar et Grèce, donc on peut quand même penser que c'est plutôt bien parti pour notre équipe de France.
Ouais, Gibraltar et Brest.
Est-ce que tu ne crois pas que justement les gars qui sont actuellement en équipe de France manquent un peu de... Enfin, ils sont déjà rodés et il faudrait peut-être avoir un peu plus de nouveautés et de nouveaux joueurs dans l'équipe de France qui puissent démontrer qu'ils ont les crocs et qu'ils en veulent même face à une équipe de l'Irlande. Parce que là, l'équipe qui était alignée, c'était pas une jeune équipe, c'était les gars qui étaient déjà là.
C'était pas une jeune équipe. Moi, j'aurais pas opté pour le cas Giroud en pointe. Voilà, clairement, je pense que Stéphane, dans son coup de gueule, je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire sur Giroud. Mais bon, on verra bien. Moi qui prends toujours la défense d'Olivier Giroud, que j'aime énormément, vraiment, pour ses capacités physiques, etc. Là, ça y est, franchement, il faut qu'il laisse la place à Colomouani. Colomouani qui a eu un petit déficit en termes de finition, mais sinon dans le jeu, dans l'apport, dans la profondeur,
c'est un petit peu son
etc.
défaut. Hein.
C'est un peu son défaut. La finition, c'est... Voilà, mais après, il est encore jeune, c'est quelque chose qui peut travailler. Voilà, c'est une chose qui se travaille, il est encore jeune. Mais Olivier Giroud, franchement, c'est plus possible. C'est plus possible, ça y est.
Mais il a quel âge maintenant? 34, 35
ouais, plus 35,
oui. Oui, 35.
Ouais, 35. Donc France qui bat Pays-Bas 4-0 et qui va gagner en Irlande 1-0. Donc c'est en tête du groupe, 6 points devant la Grèce et les Pays-Bas, 3 points, puisqu'on va rappeler que la Grèce a battu Gibraltar 3-0 et les Pays-Bas en ont fait de même sur le même score. Et donc 4e Irlande et Gibraltar avec 0 points. Alors, bon, dans ces éliminatoires de l'Euro 2024, il y a eu quand même quelques surprises. L'Écosse qui a battu l'Espagne 2-0. La Croatie, on en parlait la semaine dernière, accrochée par le Pays de Galles 1-1, et puis le Kazakhstan qui a battu le Danemark 3-2.
C'est ça. Bah, la Croatie qui se sont imposés 2-0, qui ont fini par... qui se sont imposés 2-0, mais c'était contre le cours du match, parce qu'ils se faisaient dominer quand même. Mais bon, ils ont réussi à mettre 2 buts, et ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire contre le Pays de Galles, c'est pour ça qu'ils se sont fait accrocher. La Croatie qui font une bonne opération quand même. Et maintenant, du côté de Danemark, franchement, c'est fou, quoi. Ils gagnaient 2-0. Et Kazakhstan 2-0. Et ils ont réussi à se prendre 3 buts en même pas 20 minutes, au même nombre. Il n'y a même pas eu de carton rouge. Non. Ils ont pris 3 buts en même pas 20-25 minutes.
Mais dans l'ensemble, bon, la hiérarchie a été respectée, la logique a été respectée.
Et l'Écosse,
qui ont été
très solides. Ouais. Physiquement, ils ont été très solides. Ouais. Et qu'est-ce qu'on disait avec l'Espagne? C'est aussi simple que ça. L'Espagne n'ont pas de grands attaquants. Du coup, voilà, ok, ils ont la balle, ils vont faire du tiki-taka, ils vont garder la balle, ils vont se faire 1000 passes, 1500 passes dans le match, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Mais en termes de finition, il n'y a rien. Et on l'a vu là, Écosse, coup sur coup, 2-0, et c'est mérité. Voilà, c'était un match mérité, franchement, tactiquement, qui a été mérité. Parce qu'on a vu des Espagnols se plaindre de comment les Écossais ont joué. Non, ils ont très bien joué le coup, et ils ont joué, et voilà, ils ont gagné.
Loïc, vous avez suivi la Coupe du Monde. On l'a suivi, nous, sur mon Paris FM. Hein. On a commenté les matchs, on a fait des débriefings. Vous avez suivi
J'ai suivi. Ouais. J'étais un peu en vacances, notamment sur la finale. J'étais côté Caraïbes.
Ah ouais.
Donc, c'était chaud, c'était tendu. Moi, j'aime les grandes challenges, donc c'est ça qui était intéressant. Et il y avait une pression de ouf. Et bon, voilà, c'est...
Il n'y a pas manqué grand-chose.
Voilà. Non, il n'y a pas manqué grand-chose. Il y avait un truc qui était assez rigolo sur Facebook. Un mec qui faisait le métaverse et puis qui mettait le but... par le français, j'ai plus les noms en tête des joueurs, etc. Et du coup, c'était pas mal, mais non, c'était pas la réalité, quoi.
Très bien. Allez, on a ensuite, après cette coupure internationale, replongé donc dans le championnat, le quotidien du championnat, 29e journée. Moins qu'on puisse dire, ça a été une journée à sensation, LHJ, hein, puisque donc Marseille avait commencé cette journée en étant donc tenu en échec 1-1 contre Montpellier. Victoire de Auxerre dans un match important pour le maintien contre 3, 1-0. Lens qui est allé aussi gagner donc, à Rennes, 1-0. Et puis on a eu Lille qui a battu Lorient 3-1. Match à but aussi entre Monaco et Strasbourg, 4-3. Et puis naturellement, la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain, 1-0. À domicile, on va en parler. Sans oublier donc Brest qui bat Toulouse 3-1. Et puis Clermont qui bat aussi Ajaccio 2-1. Donc 8e défaite cette saison pour le Paris Saint-Germain, 5e depuis 2023 et 2e consécutivement. On peut être carrément inquiet.
44% de défaites sur l'année 2023, c'est le plus haut total enregistré depuis 1978.
Alors, est-ce qu'on peut être inquiet pour le titre ?
Bien sûr, parce que on peut être inquiet pour le titre. Moi, je pense que le PSG, je pense toujours que le PSG vont finir champion, qu'ils vont remettre un coup de vitesse quand il faudra. Voilà, il y a encore 6 points d'avance. Je pense que même avec 2 points d'avance, c'est ce que j'aurais dit. Hein. J'aurais dit la même chose. Je pense qu'ils peuvent remettre un coup d'accélérateur en sachant que les autres équipes ne vont pas tenir aussi. Je pense pas qu'ils vont tenir la cadence d'enchaîner que des victoires.
Et puis on voit quand même des équipes qui perdent des points. Lens a eu un passage à vide. Marseille perd des points à domicile.
Voilà, Marseille, ça fait 5 matchs, ils n'arrivent pas à gagner à domicile. Là encore, ils ont Montpellier, ils n'arrivent pas à battre Montpellier. C'est dans le jeu, c'est pauvre. En fait, c'est dans le jeu, c'est pauvre, c'est catastrophique. Dans le jeu, c'est vraiment pauvre.
Monaco aussi n'a pas été très bien.
Maintenant, Monaco revient aussi. Là, Monaco, ils reviennent. Ils sont plus qu'à 3 points de Marseille et de Lens. Attention, attention, ça va jouer. Du coup, moi, je pense plus qu'ils vont plus se regarder, eux, que regarder le Paris Saint-Germain. Parce que je pense que si le Paris Saint-Germain met un coup d'accélérateur et il remonte à 9 points, il n'y a plus personne qui le regarde. Vous voyez ? Je ne pense pas. Mais maintenant, le problème du PSG. Franchement, c'est très, très, très pauvre dans le jeu. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien. Le problème, je pense qu'on l'a vu, il n'y a rien. En fait, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain perd en Ligue des Champions, sont éliminés de la Ligue des Champions, c'est la fin de saison. On pense tout de suite à l'année prochaine. Et c'est vrai, parce que c'est l'objectif, c'est l'objectif optimal. C'est ce qu'on veut, c'est depuis un moment. Voilà. Franchement, les supporters, nous, en tant que supporters, ou quoi que ce soit, ça ne nous fait pas grand-chose de gagner le championnat. En fait, c'est une normalité. On voit l'effectif des autres équipes, c'est normal qu'ils gagnent le championnat. Du coup, on n'attend rien d'autre. On se dit juste, passons à la saison prochaine. C'est tout simplement ça. Mais les joueurs, eux, doivent aller chercher le titre. Et là, je ne sais pas si les joueurs se disent, on va essayer de mettre un peu de suspense dans le championnat. Et là, on est dans le mou, on va essayer de laisser un peu de championnat comme ça. Si on leur donne le championnat, ils seront contents derrière. Non, ça serait une très grosse faute professionnelle de ne pas avoir le championnat.
Une très
faute professionnelle.
C'est la moindre des choses. Hein.
C'est la moindre choses, en fait. Oui. C'est le strict minimum. Ils sont éliminés de la Coupe de France. Mm-hmm. C'est le strict minimum, le championnat.
Il y a 2 ans, ils ont été battus d'un petit point par Lille, mais enfin, ils avaient été en demi-finale de Ligue des Champions, quand même. Hein, même si c'était un petit peu sabordé, les Parisiens, sur plusieurs matchs. Hein.
Oui, c'était, donc, c'était ça. Mais ça reste toujours, ça reste toujours un peu délicat. Mais franchement, dans tous les cas, le PSG doit finir champion. Et je pense qu'ils vont finir champion, mais ils doivent se réveiller. Et Christophe Galtier doit partir. Doit partir. Non, mais même en fait même attendre la fin de saison.
C'est méchant.
Moi je pense que même attendre la fin de saison, c'est trop. Franchement, je regarde le PSG depuis très longtemps, depuis que je suis né, les matchs que j'ai vus du PSG, j'ai jamais vu des matchs aussi mauvais dans le jeu, en fait. C'est même pas, il y a des ratés devant les cages, etc. Voilà, là on peut accabler les joueurs, etc.
Est-ce que c'est la faute absolument de l'entraîneur?
Alors beaucoup. Quand il fait un choix, il arrive sur 3. Quand il arrive, il fait un 3-5-2 en voyant tous les blessés qu'il y a, etc. Et en voyant que ça ne marche pas, qu'on a joué contre Rennes, on a perdu 2-0 à domicile. Les autres matchs contre le Bayern de Munich, on a perdu aussi. Le match avant qu'on a enchaîné 3 défaites en peu de temps contre Marseille, etc., à un moment donné, il faut changer quelque chose dans la tactique. Tu ne peux pas revenir et remettre la même tactique et à la fin, arranger pendant le match, arranger la tactique et repasser à défense à 4. Donc là, tu montres toi-même qu'il y a un problème, qu'il y a une défaillance dans ta tactique.
Alors, justement, ce qui m'intéresse, c'est de demander à Loïc la gestion des hommes, parce qu'il faut gérer des hommes quand on est entraîneur de foot. C'est pareil pour vous dans votre sport individuel.
Ouais, alors,
hein.
Ouais, alors nous, on a un sport individuel qu'on pratique en équipe. Ouais. Et après, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à Galtier, etc., enfin, c'est tout le problème du PSG, parce que c'est un problème qu'on rencontre essentiellement sur le PSG. Ouais. Il y a des entités qui sont très très fortes au niveau des joueurs, et le problème, c'est que C'est les, pratiquement les joueurs qui font soit la feuille de match, soit la combinaison, etc.
Parce ou qui appellent le président, ça va.
Ouais, parce voilà. qu'on le sait, ils appellent limite, ouais, machin, comment ça se fait, il se passe ça, etc. Et ce qui manque à PSG, c'est un mec comme type Arsène Wenger ou un truc comme ça. J'aurais rêvé d'avoir Arsène Wenger entraîneur du PSG, parce que lui, bah, il se laisse pas faire, et quand il décide de faire quelque chose, voilà. Le problème, c'est que il y a des enjeux économiques qui sont tellement énormes que maintenant l'entraîneur qui vient au PSG, il sait qu'il a un laps de temps pour faire un truc avec des super joueurs. Est-ce que le challenge va vraiment l'exciter? Je crois pas. On mettrait n'importe quel joueur, enfin n'importe quel sélectionneur. Il faut un sélectionneur qui ait du cran et qui est capable de dire toi, écoute, t'as mal joué, même si tu t'appelles Neymar ou Mbappé.
Ouais, mais alors pourquoi dans les autres clubs, on en a souvent parlé, mais pourquoi dans les autres clubs, dans les autres grands clubs, le club est plus important que le joueur?
En France ou à l'étranger, parce que ça...
non, mais ouais, mais
voilà.
Voilà, Bayern de
Munich. En France, on ne sait pas ce cas-là.
Même Manchester City, même la Juventus.
Je pense qu'au PSG, ça n'est pas ce cas-là.
Oui, il n'y a que au PSG qui est pas.
Sinon, tu regardes à Marseille. Tu regardes un truc. Tu vois, il est arrivé, tu dors, il a dit Payet, tu restes sur le banc. Quand tout le monde sait que Payet est adoré à Marseille. Mais il n'y a pas eu de problème.
C'est
que
PSG.
À Paris.
Après, c'est vrai que ça dépend un peu du président, président que tu as. Si le président il dit, écoute, voilà, je te mets à la place du sélectionneur, mais tu as carte blanche et tu fais ce que tu veux, etc. Bah, les gars, ils se tiennent à carreau. Quoi. Ils viennent à l'heure, ils s'entraînent. Et voilà. Donc, c'est un problème du PSG. Le PSG, c'est un bel écrin, c'est un beau bijou, mais c'est du falche, quoi. Si tu grattes, c'est du plaqué or, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Donc Paris Saint-Germain en tête avec 66 points, devant Lens Marseille, donc 60 points, 4e Monaco 57 et en bas de tableau, donc 15e Brest 27 points, 16e Strasbourg Auxerre 26 points. Par contre, le trou est fait pour la descente, puisque 18e 3 et Ajaccio après leur défaite, donc 21 points, et 20e et dernier Angers 11 points. En tout état de cause, on va vivre une fin de championnat intéressante, parce que Paris va à Nice la semaine prochaine, on sait que c'est toujours un petit peu chaud, et il y a un PSG-Lens alléchant dans 15 jours.
Oui, c'est chaud, c'est aussi chaud devant que derrière, parce que même derrière, bon, il y a un petit trou, de 5 points, mais il y a Auxerre qui est toujours à la limite.
Hein. Strasbourg-Auxerre,
Auxerre qui est à la limite, ils sont même, j'ai envie de dire, ils sont à 4 points de Nantes quand même. À partir de Nantes jusqu'en bas, moi je pense que c'est très très chaud. Oui. Même Nantes peuvent faire attention, parce que prochain match, Nantes, ils jouent contre Lyon. Lyon qui sont à la plage, qui recherchent une place européenne, etc.
C'est Coupe de France.
Oui, Coupe de France, pardon, Coupe de France, mais derrière, ils rejouent en championnat, je pense. Mais attention, même à Nantes, quoi. Et à Nantes, on a vu qu'ils ont perdu 3-0. Et je voudrais venir, je ne vais pas m'attarder, mais sur le sujet Comboiré, que je trouve lamentable, vraiment. Voilà, qui choisit pour les joueurs de les écarter. Voilà, à partir du moment où les joueurs sont des joueurs professionnels, ils savent s'ils peuvent jouer sous jeune ou non.
Ah oui.
Voilà, s'ils peuvent jouer sous jeune ou non.
Du coup, il y a eu un joueur
été écarté parce qu'il a voulu maintenir son jeune en jouant à domicile,
le
etc.
Jour du match.
Le jour du match, il veut jouer. On voit beaucoup de gens qui jouent le jour de match. Les jours de match, on voit beaucoup de gens qui jouent les jours de match et il n'y a aucun problème. Karim Benzema a joué hier, sous jeune. Il a mis un triplé en 7 minutes. C'est chacun et son organisme, pardon. C'est chacun, voilà, il y en a, ils y arrivent, il y en a non, etc. Ils savent très bien et ils se préparent pour ça. Ils se préparent pour ça, ils savent qu'ils vont jeûner, ils se préparent, ils vont prendre des trucs beaucoup plus énergisants pour tenir la journée, surtout les jours de match. Voilà, à partir du moment où ce sont des professionnels, moi je pense que leur décision, il y a personne qui peut prendre décision sur eux par rapport à ça. S'il y en a, ils ont, comme il a dit, Sissoko n'a pas jeûné, etc. Il y en a, ils décident de ne pas jeûner, il y en a d'autres si. Tu peux pas venir et bloquer. Et c'est pour ça que ce genre d'entraîneur comme Comboiré ne dépassera jamais la France. Quand on s'étonne qu'on ne voit pas beaucoup de coachs français à l'international, bah, c'est avec ce genre de comportement, ça ne peut pas évoluer. Quand on voit en Angleterre, là-bas, ils acceptent jusqu'à y mettre des pauses spéciales pendant le Ramadan pour des jeunes, pour qu'ils réussissent à couper leurs jeunes. Et on voit en France, ils interdisent, ils renvoient des mails aux arbitres pour leur dire c'est interdit, etc., etc. Et que même des entraîneurs s'y mettent et disent on fait pas jouer tel joueur s'il jeûne tel jour. je trouve ça très lamentable, quoi, et très limite. Et ça, ça impacte, parce que même les autres personnes autour, les Anglais, etc., ils voient comment le championnat français est, et ils voient les conditions et les règles, et moi, je pense que ça ne met pas en valeur du tout.
Mmh. Bon, Loïc, c'est un sujet qui est pointilleux quand même, hein, qui est délicat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous étiez confronté au problème?
Bah, moi, je suis confronté, parce que nous, on a des combats tout le temps, etc. Après, nous, on s'adapte. Ouais. On s'adapte sur les entraînements. Si il faut faire des entraînements plus tard le soir, on va faire des entraînements plus tard le soir. Après, sur les gars qui ont un haut niveau, ils ont un diététicien souvent qui est là pour aussi, bah, comme tu disais, pouvoir gérer le repas du matin, etc., de prendre un maximum d'énergie et de boire suffisamment d'eau et de pouvoir après gérer les entraînements. Après, c'est à nous de gérer aussi les entraînements. Et puis, c'est le retour, comme tu disais aussi, de l'athlète. Si l'athlète, il se sent bien, bah, on peut monter un peu le curseur. S'il se sent fatigué, on descend le curseur. C'est une question de travail d'équipe entre l'entraîneur et le joueur ou l'athlète, peu importe, quoi. Mais je reviens sur ce que tu disais. C'est vrai aussi, ça ne lance pas une image intéressante sur la France. On va dire, imagine des joueurs qui voudraient venir jouer en France et qui sont sur le championnat anglais ou quoi que ce soit et qui sont confrontés au Ramadan et donc aux jeunes. Bah, s'ils voient un peu les conditions un peu dans lesquelles ça évolue, on risque peut-être pas forcément aussi d'attirer des super joueurs, quoi.
Mmh. Allez, on en passe à la Ligue 2 maintenant. Donc, c'était aussi la 29e journée. Donc, le Havre, eh bien, poursuit son cavalier seul en allant gagner à Pau, donc 1-0. Sinon, parmi les autres résultats, il y a un bon retour. C'est celui de Bastia qui a battu Sochaux 3-2. Metz qui a battu Laval 1-0. Et puis, le Paris FC qui est allé gagner à Valenciennes 5-4, un match à but. Saint-Etienne qui a battu New York 2-0. Tiens, il y a PFC Saint-Etienne samedi prochain à Charletti, hein. Donc, et ce soir, il y a Guingamp-Bordeaux à 20h45. Donc, en tête, toujours le Havre avec 60 points, deuxième Metz 51 qui revient, troisième Bordeaux 50, quatrième Sochaux 49, cinquième Bastia 48, donc c'est vraiment serré, hein, pour la deuxième place, pour la montée donc en Ligue 1. Et puis le Paris FC est 8e avec 46 points, et puis 17e en bas de tableau, Laval 31 points, 18e Nîmes 29 points, 19e Dijon et Niort 26 points.
Voilà, je pense que le Paris FC n'ont pas grand chose à jouer. Je pense qu'ils vont être maintenus. Ils vont pas avoir de difficultés. Bon, ils ont plus de points d'avance sur quand même sur la relégation que.
Ils sont tranquilles.
Je pense qu'ils sont assez tranquilles, oui. Après, devant, Bordeaux aujourd'hui qui peuvent récupérer leur place de dauphin avec 53 points et laisser Metz à 2 points. Ça va jouer jusqu'au bout, quoi. Sochaux et Bastia, même Bastia, on les compte encore à l'intérieur.
Ah
parce
oui, ils
que,
sont bien revenus.
Voilà. Ah oui,
bah, dans la course
Bastia,
à la montée,
48
ah ouais.
points. Ah oui. Là, ils gagnent un match, ils repassent à 51, ils sont deuxième. Ça va très vite. Il ne faut pas que Bordeaux gagne de l'autre côté, mais ça va très vite. Ça reste très serré, devant comme derrière. Mais voilà, on verra. En tout cas, ça nous donnera une bonne fin de saison.
Loïc, le Paris FC, vous allez des fois à Charletti, non?
Ah, non, pas du tout.
Non, pas du tout. C'est pas loin. Hein.
Bah ouais.
Bon, il y aura les parcs mondiaux d'athlétisme.
Par contre, vous êtes plus spécialiste de foot que moi, mais...
Deux clubs à Paris, c'est bien.
Oui, deux clubs à Paris, mais ça serait bien qu'il y ait des moyens pour que le Paris FC puisse monter en première division. Ça serait sympa parce que ça pourrait faire un beau truc. Quoi.
Déjà, le stade a...
Mais là, quand j'entends, parce que moi, c'est vrai que je suis largué sur le championnat, mais je suis une vieille génération. Quand j'entends Metz qui est en D2, quand j'entends Bordeaux qui est en D2, quand j'entends des trucs comme ça, etc., je me dis, putain, mais il y a 10-15 ans, c'était que des équipes de première div et tout ça, etc. Bordeaux. Même Auxerre, enfin nous à l'époque c'était les grosses équipes, c'était Bordeaux, Auxerre, Lyon,
absolument.
Des trucs comme ça. Maintenant je les vois, j'entends là que c'est en D2, je fais waouh.
Alors on a même une équipe, on va en parler, qui n'est pas encore complètement en national, qui est Dijon, qui n'a pas le passé de ces clubs-là. Mais Dijon va sûrement se retrouver en national alors qu'ils étaient en Ligue 1 il y a quelques saisons. Quoi. C'est fou.
C'est une question d'argent aussi après.
Oui, oui. Pareil, hein. Certainement. Allez, le national justement, 27e journée. Alors, victoire de Dunkerque devant le Resta 1-0. Le Puy-Martigues, Machul 2 partout. Et le Paris Atlético qui a gagné son. Qui est allé faire Machul à Orléans 0-0 après avoir perdu son match en retard mardi à Charletti contre le Restart, donc 1-0. On va rappeler donc ce soir, il y a Versailles-Châteauroux à 18h. Peut-être qu'on a peut-être déjà un petit peu le score.
Oui,
et puis Concarneau-Sedan, 18h30.
Oui, Concarneau-Sedan, c'est la mi-temps, il y a 0-0. Et Châteauroux qui gagne 1-0 contre Versailles.
Ah, ouh là là, Châteauroux qui gagne à Versailles 1-0.
Châteauroux qui gagne à Versailles et Châteauroux qui monte là de 5 places quand même. Hein, et Versailles qui stagne à la 5e place.
Oui, alors justement, c'est très serré puisque Marquetigue est en tête avant ces deux derniers matchs. Hein, 48 points, devant Dunkerque, deuxième, 46 points, troisième, le Red Star, 45, quatrième, Concarneau et Versailles, justement, qui jouent ce soir tous les deux avec 44 points. Et puis en bas de tableau, donc 15e, le Puy, 28 points, 16e, Saint-Brieuc, 26 points, 17e, le Paris Atlético, 13, 24 points, et 18e, Borgo, 21 points. Bon, le Paris Atlético battu dans son match en retard à Charletti, donc mardi, et qui a quand même allé faire nul à Orléans, mais les carottes sont cuites de toute façon, hein. On dit, on le répète. Hein.
Oui, on le dit, on le répète chaque semaine, les carottes sont cuites, hein. Bah, on voit bien, maintenant c'est actuellement l'attaque la plus faible de la Nationale, en sachant qu'ils ont marqué 21 buts en 27 matchs, et après ils n'encaissent pas énormément de buts non plus, hein, parce qu'ils sont sur 31 buts encaissés. Moi, je pense plus que c'est offensivement que ça va pas. Offensivement, je pense que ça va pas. Parce qu'on voit bien, Martigues, ils sont premiers. Martigues, ils ont encaissé 30 buts. Et le Paris 13 Atlético ont encaissé 31 buts. Soit un but de plus que les leaders.
Oh là là.
Tu vois la différence ou pas? Mais offensivement, Martigues, ils ont 20 buts de plus. Voilà. Parce qu'offensivement, ils y arrivent. Mais c'est fou. Hein. Défensivement, ça va.
Ah ouais, c'est
ça tient, c'est une belle stat. Voilà, ils sont dans les derniers relégables, mais c'est une belle stat. Mais offensivement, ils peinent. Et franchement, on comprend pas.
Loïc, le Paris Atlético, vous connaissez, c'est le club du coin.
Ouais, ouais. Hein? Un petit peu, ouais.
Ouais. Hein? Bon, bah, voilà, ils ont pratiquement tout joué.
Parce qu'après, National, c'est quoi? Ils descendent en quoi? C'est quoi? Bah après, division d'honneur, un truc.
Non, ils redescendent. En fait, là, ils sont en National.
Ouais, ouais.
Ils seront montés en Ligue 2.
Ouais,
mais
ouais.
Là, ils descendent, ils seront en
National 2.
Ah ouais, National 2.
National 2, après, il y a la N3.
C'est-à-dire 4ème division.
Ah ouais, il y a tout ça. Ouais, d'accord. Ah, les boules, quoi.
Bah malheureusement, c'était, je veux pas dire prévisible, mais on sait que ce serait compliqué cette année.
Ça aurait été très compliqué. Surtout, en fait, déjà, ils montent directement première année. Déjà, ils n'étaient même pas prêts à monter parce qu'ils jouaient le maintien de base. Et ils ont vu que finalement, ils sont dans les premiers. Du coup, ils se sont dit, bon, l'objectif a changé en cours d'année et ils ont réussi à monter. Mais à ce moment-là, il y a un vote. Maintenant il y a 6 équipes qui doivent descendre, 6 équipes qui doivent défendre sur 18, donc il n'y a que les 12 premiers qui restent, voilà, il n'y a que les 12 premiers qui restent dans les 6 derniers,
c'est
très compliqué. En plus t'arrives avec le plus petit budget de National.
Ouais, c'est chaud.
C'était très compliqué.
Parce qu'on est en train de refondre les championnats, donc il y aura 18 clubs en Ligue 1 la saison prochaine, et puis
il y a pour
tous les clubs Ligue 2 et puis donc National, donc voilà, on va créer sûrement un truc intermédiaire après, non? Sûrement, non? On ne sait pas comment
ça va se passer encore, on a très peu d'infos encore. Ouais.
Voilà, allez, on n'oublie pas les féminines, donc on en vient. D'abord, on va dire que ça y est, c'est fait, c'est officiel, Hervé Renard est entraîneur d'équipe de France féminine. Ça a été annoncé.
Ça avait été annoncé ici très tôt. Hervé Renard, qui a quitté l'Arabie Saoudite et qui est officiellement l'entraîneur des Bleus féminines. Et voilà, on espère pour lui, il va annoncer sa liste là.
Oui, il y a la Coupe du Monde, je crois, dans quelques mois.
Pour la Coupe du Monde, dans quelques mois. Du coup, il va l'annoncer là, le 7 avril, je pense, il va annoncer.
Bon, on espère que ça se passera bien.
Moi, je m'en fais pas trop pour Hervé Renard. Hein, je pense c'est un très bon coach. Ouais. Je pense que, voilà. Si lui-même a voulu venir, et on a bien vu, hein, c'est vraiment, il est vraiment intéressé par le projet sportif. Hein,
oui, parce qu'il prenait. 10 salaire.
Il a diminué par 10 son salaire. Il prenait 10 fois plus en Arabie Saoudite. Il a quitté venir aider l'équipe féminine qui était déjà dans une tourmente, déjà en dehors de ses stats. Et voilà, et là, je pense que, en tout cas, j'espère pour lui qu'il fera du bon boulot.
C'est l'entraîneur qui a fait essentiellement toute sa carrière un peu en Afrique et tout ça.
Oui,
c'est ça,
qui a gagné en Afrique et qui a entraîné l'Arabie Saoudite.
Oui, qui avait engueulé dans les vestiaires les mecs
qui ont gagné contre l'Argentine.
Ils ont gagné contre le futur champion du monde.
Il a du caractère, ce que j'ai vu et tout. C'est quelqu'un qui a du bon. Qui a un caractère.
Même en Afrique, il a prouvé.
À chaque fois, il a drivé des bonnes équipes.
Et puis, on espère que ça va bien s'entendre entre les femmes et qu'il n'y aura pas de problème cette fois-ci.
Ouais, on espère.
On espère. Allez, justement, ça n'a pas été une très bonne semaine en Ligue des Champions, puisqu'on en parlait la semaine dernière, on avait quelques petits doutes pour la qualification des équipes françaises. Bah, comme chez les hommes, il n'y a plus de représentants français en Ligue des Champions. Lyon a été éliminé après sa défaite à domicile devant Chelsea 1-0, malgré une victoire 2-1 après prolongation à Chelsea. une nouvelle fois, la séance des tirs au but a été fatale aux équipes françaises, battues 5-3 au tir au but par Chelsea. Et puis le Paris Saint-Germain, battu aussi, éliminé aussi, après sa défaite et battu au Parc des Princes 1-0 par Wolfsburg. Bien que Paris Saint-Germain ait fait nul à Wolfsburg 1-1, le Paris Saint-Germain est éliminé. Donc Wolfsburg, Arsenal et Chelsea-Barcelone, ce seront les demi-finales. Les deux clubs qui s'arrêtent en quart de finale, c'est quand même, c'est pas arrivé souvent quand même, hein, LHJ.
C'est pas
surtout de la part de Lyon. Hein.
Oui, c'est ouais. pas arrivé souvent, surtout de la part de Lyon, mais le PSG qui avait inscrit un but hors jeu de très ouais. peu à la 11e minute déjà. Ensuite, après, ils se prennent le but. Donc, ils perdent 1-0. Ils reviennent à 1-1. On se dit, là encore, c'est encore, on y croit. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas jusqu'au bout. Ils poussent. Mais voilà, ils ont dominé le match. Mais voilà, ça a été un joli match. Mais ils n'ont pas réussi à s'imposer. Wolfsburg passe. Et Lyon, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour Lyon parce qu'ils gagnaient 1-0 à la 77e minute. Ils gagnaient 1-0. Et là, ils arrachent les prolongations. Et aux prolongations, 110e minute, ils mettent le 2-0, le but du chaos, normalement, que, ouais. voilà, où normalement Chelsea ne doivent pas se relever. Et Chelsea se relève à la 120e minute. Plus 8 minutes de temps additionnel. Plus 8 minutes de temps additionnel sur des prolongations. Hein. Voilà, sur des prolongations. Plus 8 minutes de temps additionnel. Et ils égalisent sur pénalty.
Et après,
ils sont battus sur tir au but. Wendy Renard qui rate son pénalty. Wendy Renard, en ce moment, qui n'est pas trop dans le bon avec les pénaltys. Elle a un peu du mal en ce moment parce que ses 3-4 derniers pénaltys sont loupés.
Moi, c'est à l'image du foot français actuellement, dans la séance de tir au but. Hein.
La séance de tir au but, voilà, ça résume un peu notre.
Pourtant, quand tu te mets sur un point de pénalty, que tu regardes la cage, tu te dis putain, il y a de la place quand même. Tu me dis les mecs.
Bon. Il faudrait étudier ça. Il y a probablement un petit côté aussi émotionnel, mental. Enfin bon, c'est long à étudier. Allez, en championnat, par contre, le Paris FC et Guingamp pour la 18e journée ont fait match nul 2 partout. Lyon est allé écraser donc le Havre à domicile 7-0. Et puis le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux 1-0. Donc Lyon, première avec 49 points. Devant le PSG, deuxième, 48 points. Troisième, le PFC, 35 points. Et quatrième, Fleury, 32 points.
Oui, Lyon se devait derrière de mettre une déculottée pour vraiment tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en Ligue des Champions, le retransmettre tout de suite, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est le Havre qui en paye les frais. Ils ont perdu sur un score très lourd de 7-0. Et on voit bien, on attend toujours le PSG qui s'impose sur une petite marge de 1-0 face à Bordeaux. Mais on attend toujours la confrontation qui déterminera qui prendra la première place, même si je pense que c'est plus pareil pour Lyon quand même, pour l'Olympique Lyonnais.
En tout cas, les deux équipes n'ont que ça à jouer.
Ouais. Et là, voilà. Faut en faire attention.
Allez, un petit mot sur les championnats étrangers. Arsenal toujours, donc qui est en tête du championnat anglais. Le Bayern qui prend un peu le trou en Allemagne. Naples toujours en Italie, largement en tête. Et puis, en Espagne, le Real aussi. En gros,
qu'est-ce
qu'on peut dire en gros sur ces championnats étrangers ?
Oui, côté allemand, le Bayern voilà, qui creuse l'écart. Voilà, RB Leipzig qui perd encore à domicile contre Mayence 3-0. Et voilà, Bayer Leverkusen qui se rapproche des places européennes avec un 3-0. Francfort qui cale face à Bochum. Voilà, la bonne opération de ce week-end. Et le Bayern de Munich avec Tourelle et sa première. Et il l'a bien réussi. Bon, il a dit qu'il était un peu gêné par les deux buts qu'ils ont encaissés. Mais sinon, le reste, ça lui plaisait en tout cas dans le jeu. Parce que dans le jeu, ils ont beaucoup proposé. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Du coup, voilà, sur son dauphin, ils ont montré que c'était.
Donc là, c'est voilà, tâche favorable pour le Bayern. Hein.
Oui, je pense qu'ils vont aller au bout. Hein. Là, maintenant, on n'est plus à beaucoup de jours.
Ça a été serré quand même en Allemagne.
Même là, attention, parce que le Bayern peut faire encore un faux pas. Ils ont Manchester City en Ligue des Champions. Ça peut être des matchs où ils se disent peut-être il y a des matchs qu'il faut faire tourner parce qu'en Ligue des Champions, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, il reste 3 petits points quand même. 2 points. Et attention. 2 points, voilà. Un match nul, Dortmund peuvent repasser devant. Mmh. Attention. Voilà. Mmh. Et côté.
En Espagne, le Real.
Côté Espagne, le Real. Le Real.
Deuxième, non, c'est Barcelone qui est un peu d'avance.
Oui, le Real. Consolide leur place de deuxième.
C'est
ils ont 5 points, ils ont 5 points de l'Atlético. Voilà. Le Barça qui continue, qui ont cartonné Elche 4-0 avec un doublé de Lewandowski qui n'avait pas marqué depuis 4 matchs. C'était une série qui interminable pour lui parce que ça ne lui était jamais arrivé. Et voilà, le Barça qui continue à filer vers la Liga tout droit avec un 20e clean sheet sur 26 matchs pour Ter Stegen. cette saison. C'est très très fort. Ils ont encaissé que 9 buts. Et voilà, le Barça qui s'envole encore en plus. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le championnat
espagnol, ni italien.
Italien.
Naples en tête largement.
Oui, Naples en tête largement, mais attention, parce qu'il y a une demi-finale de Ligue des Champions. Oui. Et quand je vous disais que la demi-finale de Ligue des Champions, quand, parce que la semaine dernière, quand on a eu le tirage au sort, je vous ai dit demi-finale de Ligue des Champions, Naples-Milan. Oui, non, ils sont déjà en...
Non, c'est les quarts.
Oui, là, ils sont en quart. En quart de finale, c'est Naples-Milan AC.
Éventuellement, ils peuvent se qualifier pour les demi.
Éventuellement, ils peuvent se qualifier pour les demi. Maintenant, quand on m'a demandé mon prono pour Milan-Naples, qui est-ce qui allait en demi-finale ? Pour moi, c'était Milan. Mmh. Et là, on a vu Milan. Et qu'est-ce que je disais ? Et c'est exactement ce que je disais. Sans Victor Osimhen, Naples, c'est très compliqué. Ils ont joué là contre Milan. Milan leur ont mis 4-0 au stade Armando Maradona. Du coup, attention. Attention, là, il y a les quarts de finale qui sont dans la semaine prochaine. Milan qui gagne déjà 4-0. Naples, ça doit leur faire un coup au moral. Attention. Mmh. Voilà, et la Juventus qui ont enchaîné un petit 1-0. L'Inter de Milan qui enchaîne les mauvaises performances et qui ont perdu 1-0 à domicile contre à San Siro contre la Fiorentina. L'Atalanta qui consolide et voilà, hein, pour l'instant ça continue comme ça. La Juventus qui se rapproche, hein, qui sont plus qu'à 4 points malgré leur pénalité des 15 points. Vrai. Ils sont plus qu'à.
Ce serait un fabuleux retour quand même. Hein.
Ah ouais. Et attention parce qu'ils peuvent quand même récupérer leurs 15 points. Et s'ils récupèrent leurs 15 points, ils sont un deuxième très très solide. Deuxième très très solide, la Juventus. Du coup, voilà, attention à la Juventus.
Très bien.
Et championnat anglais, Angleterre, l'Arsenal qui consolide leur place. Manchester City qui met encore une fessée à Liverpool, qui sont dans le mal. Liverpool, ça fait 3 matchs, 3 défaites consécutives. Liverpool, je pense que pour la 4ème place, ça va être très très compliqué quand même. Mais bon, comme Tottenham n'ont pas réussi à. Tottenham joue ce soir, mais Manchester United n'ont pas réussi à enchaîner, ont perdu contre Newcastle. Ils sont 4ème, Newcastle, qui font la bonne opération, qui sont 3ème. Attention, et à la fin, Leicester qui sont 19e, le coach qui s'est fait virer. Voilà, le coach qui a été viré, qui a été licencié de son poste, et maintenant ils sont 19e. Attention pour Leicester de ne pas tomber à travers de ces mauvaises performances-là.
Merci El Hadji pour cet abondant point foot. Hein, il y avait l'actu. Hein. Alors, je ne dis pas la semaine prochaine parce que c'est pas qu'on a un petit week-end de repos, hein, mais dans 15 jours, hein, on aura encore beaucoup de choses à dire. Oui. On va écouter la première pause musicale, donc Foreigner Urgente. Ensuite, on retrouvera le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane. Et ensuite, je sais qu'il est bien aussi le MMA. On parlera MMA avec notre ami Loïc. On y va. Voilà, et ben on va finir ce chapitre foot avec notre ami Stéphane Desenclos, que l'on retrouve donc chaque semaine pour son coup de cœur, coup de gueule. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, très bien Stéphane. Oui, il y a eu en tout cas une belle, belle semaine de foot. Il y a plein de choses à dire.
Une énorme semaine de foot. Et avant de revenir sur ma chronique, je voulais juste dire une petite chose. J'ai entendu, je vous ai écouté. Vous avez dit plein de choses super intéressantes. Et j'ai entendu notamment le discours de El Hadji sur la position de Kombouaré par rapport à Ramadan. Et je lui dis bravo. Et je suis 2000%, mais 2000% d'accord avec lui.
Bah, vous êtes d'accord, Tanzan
Outlaw ? Exactement. Ouais. Et notamment, il faut rappeler qu'Antoine Kombouaré, c'est celui qui a fait annuler la participation du FC Nantes au trophée Emiliano Sala. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, enfin, au dernier trophée en date. Pour des raisons sportives, c'était plus intéressant sur son équipe. Alors, genre un mois avant, il a planté tout le monde en disant bah non, nous, Nantes, on n'ira pas au trophée Emiliano Sala. Voilà. Bon, bref, fermons la parenthèse. Je ne suis pas sûr que ce mec, effectivement, soit un grand entraîneur.
Pourtant, on le connaît, ce type sympa, hein, quand on le côtoie.
Galère sympa, mais là, c'est quand même très bizarre, quoi, bon, comme l'a dit. En tout cas, là, je partage. Donc, voilà. Oui, alors, effectivement, Philippe, comme on le disait, il s'en est passé, vous en avez parlé, il s'en est passé beaucoup des choses cette semaine, une grosse semaine. Alors, d'abord, il y a eu Dublin, hein, avec l'équipe de France, c'était le soir même, le soir même de notre dernière chronique. L'équipe de France a confirmé sa belle entame des éliminatoires de l'Euro 2024. Alors, d'accord, ça n'a pas été aussi beau que face aux Pays-Bas, quelques jours plus tôt, mais les Bleus terminent leur premier rassemblement post-Coupe du Monde avec un 6-6 prometteur. Ces deux matchs nous confirment que la succession est assurée, que ce soit celle de Lloris par Maignan, celle de Varane par Upamecano, celle de Giroud par Colomouani. En tout cas, les successeurs sont là. Ensuite, on a donc eu la confirmation, ça vous l'aviez plus ou moins confirmé déjà, que Hervé Renard était bien le successeur de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France. C'est la première fois, hein, si je ne m'abuse, qu'un entraîneur reconnu qui a gagné des titres importants avec les hommes prend en charge une équipe féminine, et c'est tant mieux que ça arrive chez nous. Il reste maintenant 4 mois pour préparer la Coupe du Monde, et moi je vous l'annonce, on peut la gagner, en tout cas on est vraiment, je pense qu'il faut citer la France, parmi les favoris pour cette Coupe du Monde. Dans cette semaine de foot, il y a eu aussi cet incroyable retour de la Ligue 1, et on peut le dire, la course au titre est entièrement relancée. En perdant au Parc pour la deuxième fois d'affilée, hier, contre Lyon, le PSG a donné le bâton pour se faire battre par Lens. C'est simple, vendredi prochain, Lens reçoit Strasbourg. Et en cas de victoire, reviendra à 3 points du PSG qui joue le lendemain, samedi, à Nice. Vous imaginez un peu le plan avant la venue de Lens au Parc la semaine suivante. Et on peut même aussi parler de l'OM, plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison, et qui sera à Lorient le week-end prochain. Le pire, c'est que tout cela ne semble pas inquiéter les dirigeants parisiens, alors que Graham Potter perd son poste à Chelsea, faute de résultats, que Nagelsmann est démis de ses fonctions au Bayern, parce que le club est deuxième, il est devenu premier depuis, Christophe Galtier, lui, est toujours là, pour un PSG sans idée, sans jeu, sans âme. Mais alors, quelle tristesse ! Et puis, encore plus pitoyable, le Parc qui fait de Lionel Messi son bouc émissaire. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il est irréprochable, notre champion du monde argentin, mais il y a quand même pourtant d'autres responsables avant lui. Enfin, aussi, une dernière info de ce week-end, la saison prochaine, vous en avez peut-être parlé, j'ai pas écouté, c'est passé un peu inaperçu, mais c'est une équipe de nationale, et oui, tout simplement une équipe de nationale qui pourrait défendre l'indice UEFA en Coupe d'Europe. La France du foot tremble. Je vais vous expliquer.
Oui.
S'ils sont en déplacement à Nantes mercredi pour jouer la demi-finale de la Coupe de France, donc est grand favori pour gagner la compétition, Annecy, qui reçoit Toulouse jeudi, peut aussi aller au Stade de France, hein, on est bien d'accord, et créer la surprise en finale. Après tout, les Haut-Savoyards, ils sont bienvenus gagner au Vélodrome, alors pourquoi pas battre Toulouse sur sa pelouse et s'imposer ensuite en finale au Stade de France. Le problème, c'est que Annecy enchaîne les mauvais résultats depuis sa victoire au Vélodrome, et il pointe à la 15e place en Ligue 2, à 2 petits points seulement du premier relégable Laval. Et il reste 9 matchs à jouer. Donc, et oui, un concours de circonstances peut nous livrer un Annecy Juventus ou un Annecy Liverpool en Ligue Europa la saison prochaine. Si on ne risquait pas de perdre notre 4e place à l'indice UEFA, ça nous ferait presque sourire.
Oui, c'est vrai. Merci Stéphane, en tout cas, pour cette abondante actu foot. Rendez-vous non pas la semaine prochaine, hein, c'est Pâques, mais dans 15 jours. Hein.
Bah, voilà. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et pas besoin de rompre le jeûne, là, pour Pâques, mais quand vous arrivez, être content. Voilà. Allez, bonne soirée à vous, les amis.
Allez, merci. Et t'as le bonjour d'Eladji et de Valentin. Voilà.
Ouais, bah, bonjour à eux, ciao, ciao.
Et de Jason aussi, qui est aux manettes. Voilà.
Bonjour à tout le monde. Ciao,
allez,
ciao.
Salut. Voilà, voilà donc pour ce point foot. Eladji, merci. Tu peux rester avec nous hein, pour le MMA.
Oui, bien sûr.
Hein. Alors, justement, à notre ami Loïc, alors, question simple, pourquoi une nouvelle section de sport de combat dans le coin? Il n'y avait pas véritablement de section spécialisée dans le MMA?
Alors, j'avais un club déjà, moi, qui était rue Charcot.
Oui.
Platinum MMA Training Center. J'ai fermé le club pour d'autres... d'autres projets, et je cherchais une salle, et avec l'aide d'un collectif qu'on a monté, et donc d'une association qu'on a montée, et d'une présidente, une élève que j'ai proposée au poste de présidente, Sabia Samaï. Elle a réussi à avoir les contacts de l'adjoint au sport. Aymen, Bessian...
Oui, Eman, qu'on connaît très bien.
Souvent,
voilà. Attention, il nous écoute, et en plus, c'est un fidèle de l'émission. Merci, hein. Merci voilà. À lui. Et on va saluer Valentin aussi, qui est arrivé. Ça va,
bonjour,
Valentin.
Bonjour, j'espère tout
le
monde.
Et du coup, on lui avait expliqué un petit peu le souci qu'on avait eu avec le Platinium, parce que le Covid, etc., ça a été très compliqué, hein, comme tous les clubs un peu indépendants. Et il nous a proposé d'aller rencontrer d'aller voir des locaux. Et on a vu un local. Dès que je suis entré dans ce local-là, c'était un peu une évidence. Un peu comme quand on cherche un appartement.
Ouais, voilà. Le coup de cœur, quoi.
On rentre et on se dit, mais c'est absolument là, quoi.
C'est le coup de cœur, ouais.
J'ai vu ce local. Et j'ai dit aux troupes qui étaient avec moi, j'ai dit, écoutez, j'ai vu un local, là, c'est vraiment extraordinaire. Il faut qu'on se positionne dessus, etc. On s'est positionné. Ça a mis du temps parce que... faut faire un dossier, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, on a eu une réunion avec justement Ayman et puis son adjoint Kylian. Une réunion à la mairie qui était prévue sur 1 heure. On est resté 2 heures. Et à la fin de cette réunion, ils nous ont dit, écoutez, votre projet, il nous plaît énormément. On va essayer de travailler ensemble pour que vous puissiez œuvrer dans ce sens et ouvrir un club, encore un club de MMA dans le 13e arrondissement, justement dans la rue du Chevaleret,
alors,
au bout de la rue du Chevaleret.
On est voisins, hein, comme on l'a
on
dit
est
tout
voisins,
à
on est à 50 mètres.
Ouais, c'est ça, 50 mètres. Hein.
Ouais, ouais,
alors,
ouais.
Ça sera où? Ça sera où? Combien?
Alors, ça sera au 5 bis, 7 D'accord. bis, parce qu'on a deux numéros, ouais. 5 bis, 7 bis, rue du Chevaleret.
Ah, oui, bon.
Le local fait 260 mètres carrés, mais il est tellement bien conçu qu'on a une grosse surface de travail. On va avoir un tatami qui va être près de 120 mètres carrés, un espace de cross-training, des grands vestiaires. Et puis un espace de repos, parce qu'on a des athlètes de haut niveau, on a des professionnels, des amateurs, on a des gens aussi qui restent quasiment toute la journée pour s'entraîner deux fois par jour. Et donc on a une salle de repos dédiée pour eux, etc. Faire une salle de briefing, ouais, vraiment tout le confort que je souhaitais avoir, on va le mettre à disposition des athlètes.
Et ça va être surtout orienté MMA. Hein.
Alors ça va être vraiment orienté MMA, donc 100% MMA, beaucoup de cours de MMA, beaucoup de cours de lutte à livrer. La lutte à livrer, c'est une forme brésilienne de grappling. Bon voilà, c'est uniquement du sol. Et des activités annexes, mais sans prétention, pour vraiment développer encore plus la qualité pugilistique du MMA, c'est-à-dire la boxe anglaise et la boxe thaïlandaise.
D'accord.
Alors, deux activités qui ne seront pas concurrentes, parce qu'on a juste à côté de nous, on a le...
Justement, j'allais dire, il y a beaucoup de clubs de sport de combat, on en a reçu beaucoup à ce micro l'année dernière. Hein, donc, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde?
Oui, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde, et puis on est complémentaires, parce que moi, j'ai des athlètes qui s'entraînent un petit peu au Phoenix, hein, un gros club de boxe thaï historique du 13e. J'en ai qui s'entraînent en boxe anglaise au club 120 aussi, qui est juste à côté.
Ils sont tous venus au micro.
Donc, on est très complémentaires. Voilà, et voilà, nous, c'est vraiment l'axe de travail, c'est le MMA. En plus, on est ici, on est dans un quartier prioritaire de la ville. Donc, du coup, on a beaucoup de choses à faire aussi avec la mairie, avec les jeunes. J'ai des projets avec les jeunes du 13e, et pas que du 13e, mais pas mal de choses, parce que Le 13e, c'est très riche en jeunesse. Du coup, il y a des jeunes qui savent pas qu'ils ont forcément un talent dans les sports de combat. Donc, il faut un peu d'envie, un peu de passion et puis bien les driver. Mm-hmm. Et puis, on peut faire des champions. J'ai des jeunes de... Moi, la salle était plutôt côté Recharco, etc., Clisson. Donc, j'ai des jeunes qui étaient arrivés chez moi, des footeux surtout.
Oui,
des gars qui ont du foot. Et ils sont intéressés. Et puis, ils ont eu des ceintures de champion. Et j'en ai qui sont devenus profs aussi dans mon club. Donc, toute une.
Alors, ça va s'appeler The Full Force Academy.
The Full Force. Ouais. Je t'explique pourquoi.
Oui, vas-y, bien sûr. t'es là pour ça.
Donc, je vais bientôt avoir 50 ans. Ouais. Et les petits jeunes, ils savent pas. Mais nous, on est une génération de gangs.
Ouais.
Voilà, donc quand j'étais gamin, j'étais dans un gang à Marne-la-Vallée qui s'appelait les TFF, les Full Force.
D'accord.
Et puis, c'était à la grande époque des gangs, il y avait les Requins Juniors, il y avait les Black Dragons, il y avait les Beurre 55, il y avait les Haznay, il y avait tout ça, etc. Chaque ville avait son gang, maintenant c'est plus trop comme ça. Mais nous, c'était vraiment plutôt la ville qui avait un gang, et nous, notre gang, c'était à Logne, à Marne-la-Vallée.
Ouais.
Avec Martial Vlavo, qui était un peu qui était le patron du gang, et on était les TFF, les Full Force.
Ouais. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais qu'on rappelle un petit peu ce qu'est le MMA, parce que c'est vrai que c'est un sport aujourd'hui qui est en vogue, qui prend le dessus pratiquement sur tous les autres sports de combat, y compris sur la boxe anglaise. Hein. On voit pratiquement presque autant maintenant de MMA que de boxe anglaise, et pourtant, c'était un sport qui n'avait pas une très bonne image au début, beaucoup de violence.
C'est un sport de combat.
Il y a même des combats qui ont été interdits. Il y a même, on l'a toléré maintenant en France. Ça y est, c'est fait.
Alors, la genèse, c'est quoi ? Alors moi, j'ai initié le MMA en France dans les années, milieu des années 90. J'allais m'entraîner en Hollande. J'avais 20, c'était en 92, 13, j'avais 20 ans. Et j'allais en Hollande parce qu'il n'y avait pas de MMA, puis ça n'avait pas le terme de MMA, ça avait des termes un peu plus violents, on appelait ça free fight,
MMA, c'est mixed martial art, c'est ça, non ?
C'est l'accent français tue.
Absolument. Mixed, non ?
Mixed martial art.
Mixed. Oh.
Voilà, attention.
Ah oui, effectivement, ouais.
Et du coup, ça avait des noms vraiment barbares. On appelait ça du NHB, c'était No Holds Barred, ça veut dire sans retenue, c'était Valet Tudo, chaque pays avait un peu un nom un peu barbare. Et le nom Mixed Martial Arts, ça a été un peu démocratisé il y a à peu près une bonne quinzaine d'années maintenant, avec l'UFC, l'arrivée de l'UFC, qui s'est professionnalisé surtout à partir des années 2000, 2003, 4, 5 à peu près, j'ai plus trop la genèse de tout ça, mais... Et en France, on était un des seuls pays au monde à ne pas faire du MMA en compétition. On ne nous empêchait pas de s'entraîner, parce qu'il y avait plein de clubs de MMA. On a eu des athlètes qui ont combattu à l'UFC, ça ne nous a pas empêché d'avoir des sportifs de très haut niveau dans des grosses ligues internationales. Mais on n'avait pas le droit à la compétition en France. Avec l'aide de Roxana Maracinha,
qui était l'ancienne ministre,
qui a beaucoup œuvré en notre faveur, et elle a compris que c'était pas un sport plus dangereux qu'un autre. À la question que tu me posais en me disant oui, c'est un sport, c'est violent, etc., fait un sport de combat. Faut savoir que c'est encadré, savoir qu'il y a des niveaux aussi différents, et donc du coup, ce qu'on voit au niveau professionnel, c'est pas la même chose qu'on voit au niveau amateur.
Non, mais parce qu'il faut dire aux parents, pour les parents qui ont peur, il faut quand même.
C'était l'image qu'on donnait, alors qu'en soi, c'est un sport de combat comme un autre, c'est les règles,
Alors justement, les règles, c'est quoi ?
Alors c'est simple, les règles sont assez simples. Tout ce que tu as le droit en judo, tu peux le faire. Tout ce que tu as droit à la lutte, tu peux le faire. Tout ce que tu as le droit à la boxe anglaise, tu peux le faire. Tout ce que tu as le droit au taekwondo, tu peux le faire. Tout ce que tu as le droit dans toutes les disciplines de combat qui existent, tu as le droit de le faire. C'est le sport de combat le plus complet parce que tu as cette possibilité, cette richesse de mouvement et d'action que tu peux avoir sans limite. On n'est pas un sport de self-défense, on ne fait pas du Krav Maga ou du Pench Axilat, on ne va pas mettre les doigts dans les yeux, des choses comme ça. C'est codifié, c'est un des sports qui a le plus de codification par rapport à d'autres activités. On a plus de 40 interdictions dans le code sportif. Donc c'est très 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 bien encadré.
Et c'est pour ça que ça plaît, cette mixité justement.
Ça plaît parce que chacun va pouvoir s'exprimer à son envie. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont se dire bah moi j'aime bien le MMA parce que j'ai cette liberté de mouvement, mais je préfère la percussion, donner des coups de pied, des coups de poing. Si je vais au sol, ça va pas trop me déranger, mais mon but ça va être de me lever pour me reboxer, etc. Il y en a d'autres qui vont plutôt se diriger sur le MMA parce qu'ils veulent attraper quelqu'un, l'amener au sol et puis faire des nœuds avec ses bras et faire des nœuds avec ses jambes. Et pour autant, ça ne leur fait pas forcément peur ou ça ne les impressionne pas d'avoir de donner des coups de pied ou des coups de poing ou de prendre des coups de pied ou de prendre des coups de poing. Donc c'est ça, cette richesse de cette discipline, c'est cette possibilité de faire un petit peu ce que l'on veut dans une règle commune qui permet de percuter, de projeter, de travailler au sol.
Ça dure combien de temps un round dans un match ?
Alors en MMA, il y a deux choses. Il y a le professionnel, donc tu as trois rounds de 5 minutes avec une minute de repos.
Ouais,
voilà.
Rounds de 5 minutes,
et
ouais.
Si c'est un titre ou un main event, c'est 5 rounds de 5 minutes.
Et il y a des catégories, naturellement, du poids, comme dans tous les sports de combat. Hein.
Exactement, on a plein de catégories. On a 8 catégories de poids différentes, du moins de 56 kilos au plus de 93 kilos. Ouais.
Et aujourd'hui, on parle plus de Cyril Gane que d'un champion du monde de boxe anglaise.
Bah, Cyril
on en
Gane,
a plus en plus.
Ouais,
on
Cyril, en a Cyril, il a combattu The Goat, John Jones, la dernière fois. Il est passé à côté de son combat. Mais voilà. Au même titre, c'est comme si qu'on avait un Français qui allait, combattre contre Mohamed Ali. C'est comme si qu'on avait un Français qui allait se mesurer avec, un grand champion de tout ce que tu veux. Quoi. C'était extraordinaire. C'est un truc incroyable.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plus des reportages, plus des matchs retransmis de MMA que la boxe anglaise. Hein. On parlait de notre génération à l'époque.
Ah, disons qu'il y a des grosses... Il y a vraiment des grosses organisations internationales. Il y a l'UFC, il y a le Bellator, il y a le PFL, il y a des gros trucs. Il y a le ONEFC sur la partie Asie. La boxe anglaise, on a quelques...
Parce qu'il les a tués, ça a été les quatre catégories.
Il y a plein. Entre la WBC, le WBO, l'IBF...
Le grand public avait plus de points de repère.
Et puis même dans certaines catégories, ils ont fait des ceintures. Ils ont fait trop de ceintures. Et puis, ils essayent de créer aussi beaucoup de parcours un peu sans faute en boxe anglaise. Ce qu'on retrouve aussi en MMA, c'est-à-dire que il y a des athlètes qui ont des 10-0, des 15-0, etc. Donc, ils sont, on va dire, plus bankable. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche ou de voir des vrais combats à l'époque? On est cette génération-là, on voyait Adler contre Hearns, ils se sont rencontrés 4 ou 5 fois d'affilée. C'était des super combats. Quoi. Mais maintenant, c'est vrai que ça s'évite un petit peu. Et quand on arrive à avoir un contrat avec, Tyson Fury, Anthony Joshua, tout le monde attend ce combat-là. Et ce qui va arriver un jour, on ne sait pas. C'est des matchmakers, ça dépend des managers. Il y a tellement d'argent en jeu que... au détriment du sport.
La MMA a développé son image aussi avec les jeux vidéo UFC qui ont permis une meilleure intégration. Il y a plus de contrats télé qui sont mis sur le marché maintenant. Quand on voit le contrat de Joshua, c'était avant-hier, je crois. Personne l'a regardé, on va pas se mentir. Regardé, mais il y avait plus cette hype autour. Que c'est vrai qu'à l'époque, Joshua Ruiz, c'était devenu. On attendait juste face à Fury le match, la confrontation. Et maintenant, la MMA, c'est vrai qu'il y a plus cette image.
Il a pris sa retraite en plus, non?
Il a fait son combat
contre Franklin, c'était le week-end dernier.
Mais il a pas pris sa retraite derrière?
Non.
J'ai vu un article comme ça, je crois.
Il a sous-entendu que parce que ça commençait à devenir.
Comme il perd les combats, il va les prendre.
C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas.
Après, ça fait monter la cote, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un peu.
Et puis après, je reviens.
C'est ça, c'est l'histoire. Et la MMA joue aussi sur ces histoires avec McGregor, avec John Jones. Parce que cette histoire un peu de héros, ange déchu qui revient petit à petit.
C'est entertainment.
C'est pas le risque
qu'il faut. Après, ce qu'il faut voir, il y a deux choses sur les grosses organisations comme ça, c'est que les organisations comme ça, ils vendent du pay-per-view, ils vendent de la place. Ils ont besoin d'avoir des histoires et donc de créer des histoires.
Après, on a pu,
on voit ça dans d'un œil de passionné, d'un œil de pratiquant ou de fan, etc. Donc on regarde le challenge sportif. À la tête de ça, c'est pas des sportifs qui sont là, c'est des businessmen. Donc l'idée, c'est de faire du business.
C'est pareil
et de
dans faire tous les sports, hein, c'est pareil pour voilà. Le foot, c'est pareil pour voilà.
Ouais. Donc du coup, voilà, il y a des fois, c'est vrai qu'on rêverait d'avoir tel ou tel combat, mais c'est des combats qui se feront certainement jamais parce que bah, il faut, il y a une poule aux œufs d'or, il faut la faire pondre un maximum. Quoi. Ouais, ça.
Bon, il y aura combien de licenciés dans le club ? Est-ce que déjà on peut s'inscrire ?
30 000 personnes.
Ouais, 30 000, ça va
être immense. Non.
Non, mais bah, on peut déjà s'inscrire ?
Oui, oui, bien sûr.
On peut
là,
déjà
on
téléphoner
a...
à
ouais,
lui. Oui,
alors téléphoner, non, on n'a pas encore mis de standard, mais on a fait un petit. On a Instagram, ouais, on a un tout petit site web parce que bon, faut faire un beau truc, etc. Là, on a fait des préinscriptions à 600 € là, l'année au lieu de 990 €. Ouais, alors là, c'est
c'est un coup quand même. Hein.
C'est un coup, mais c'est un pass full. C'est vraiment pour, pour les gens qui veulent tout faire. Après, par rapport à, justement au 13e arrondissement et tous les jeunes du 13e arrondissement, on a des projets avec la mairie pour faire des coûts vraiment, vraiment, vraiment très bas pour les amener un maximum à venir chez moi. Et je préfère avoir des jeunes qui viennent s'entraîner quasiment toute la journée chez moi et devenir des champions que à rester dehors et à rien
absolument,
faire.
Il surtout qu'il y a,
ici, dans le 13e,
sport,
hein. On a...
C'est le but du sport, en plus.
Bah ouais, puis dans le 13e, on a un potentiel de ouf. Il y a des jeunes de ouf et des gars qui en veulent et qui sont bien, etc. Et donc, il faut aller les... faut leur dire qu'on est là, on va être là, ils vont venir et puis on va les driver, quoi.
Mais on peut en accueillir combien, grosso modo?
Oh, bah après, j'ai une salle à taille humaine, donc on a plein de créneaux horaires, mais si on peut être 600, 700 adhérents, il n'y a pas de problème.
Et elle fonctionnera 7 jours sur 7
quasiment le dimanche. Pour l'instant, le dimanche, ça sera fermé.
Oui, oui.
Mais 6 jours sur 7, ouais. Il y aura des matins, matin, midi, après-midi et soir.
C'est bien. Et il y aura des filles?
Ah bien sûr, ouais. Mais... Moi j'ai eu la plus grosse section féminine que j'avais montée avec ma coach Tevi Sey, qui est maintenant à Nantes maintenant, qui s'appelait le cours c'était MMA Girl. Et on reprend encore le cours de MMA féminin, 100% féminin, que je vais sûrement encadrer d'ailleurs même.
Donc les premières licences, à quel âge? 7 ans, 8 ans, on peut venir même
On est en train de voir ça, Moi à partir de 13 ans, les gamins, je les prends en adultes. Pour moi, ils sont adultes. On a des gamins à 13 ans, ils font 1m90. On est en train de voir sur des créneaux horaires adaptés pour avoir des 6, 7 ans, 8, 9 ans, des choses comme ça. Ouais, ça va être fait peut-être le mercredi. On essaye de voir aussi pour les vacances scolaires. On est en train de mettre pas mal de choses en point aussi avec la mairie, mais pendant les vacances scolaires, justement pour les gamins, tous les jeunes, de leur faire un peu des stages, des séminaires le matin,
bien,
l'après-midi, de leur faire des trucs, leur faire découvrir et puis dire bah voilà, s'ils veulent s'inscrire derrière, on peut les inscrire. On a plein de trucs. Il y a un truc qui me tient à cœur que je peux t'annoncer, c'est que c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que je voulais le faire, mais j'étais tout seul et j'ai trop débordé. Mais là, avec l'équipe que j'ai, c'est ce que j'ai appelé les trials. Et les trials, c'est quoi? C'est un peu un truc de détection de talent.
Oui, on en parlait en off tout à l'heure.
Voilà, détection de talent, c'est-à-dire en début de saison, septembre, courant septembre. Moi, ce que je veux aussi, c'est que les gamins soient motivés. Donc, avec une petite connaissance déjà des sports de combat, au moins un an de pratique, voire 2 ans de pratique. Peu importe le sport, le mec il peut faire du judo, de la lutte, peu importe. Et l'idée, c'est quoi? C'est que candidature. Donc le gars, même s'il écrit mal, j'ai envie qu'il m'écrive. Pourquoi il a envie de s'entraîner chez moi? Test physique, test technique, et puis un petit entretien. Et l'idée, c'est de sélectionner dans tout le groupe que je pourrais avoir. Si j'ai une centaine de personnes, on va s'arranger de faire ça sur 2 jours ou 3 jours. Et c'est de sélectionner 2 garçons, 2 filles, et de les prendre en main à 100%. C'est-à-dire l'équipement, protège tibia, les gants, le matos, l'abonnement, les entraîner, les former et surtout aussi les inscrire. Donc je voudrais faire ça à partir de 16 ans, 17 ans et de les former au métier de coach de MMA ou de boxe pour les former sur des brevets moniteurs fédéraux qu'on existe et après les former. Donc d'année en année on renouvelle. Si tient le rythme, et ben on continue. S'il tient pas le rythme, ben, en gros il dégage. Mais les faire aller jusqu'au BPJEPS pour qu'ils puissent avoir un diplôme d'État.
Le sport est créateur d'emploi, ça, on le dit
jamais
assez.
Ça me botte, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas qu'ils peuvent éventuellement, grâce à leurs mains et leurs bras et leurs jambes et leurs pieds, devenir pas forcément des champions, mais des super profs. et gagner leur vie et d'être heureux, quoi, d'être comme ça. Quoi. Donc, c'est, c'est toujours plutôt sympa d'être dans une salle de sport que d'être, je sais pas, un truc à la con, à McDo. Quoi.
Et puis de vivre de sa passion surtout. Hein.
C'est ça, surtout c'est ça, c'est ça. C'est ce qui est le plus enrichissant. Ouais.
Combien de personnes travaillent autour de l'équipe
Alors là, on est là, ouais, bah, c'est tous des bénévoles pour l'instant. Ouais, ouais. C'est une association, donc on a une présidente, on a un vice-président, on a un secrétaire, un trésorier. Moi, je suis l'homme de l'ombre pour l'instant, dans le sens où je suis, on va dire, entre guillemets, un directeur sportif, même si je n'ai pas le titre, mais dans l'idée, c'est ça. Et puis après, on a tous les coachs, coach de lutte à livrer, coach de MMA, on a tout.
Ça y est,
tout,
voilà. Eux, ils ont un diplôme.
Ah ouais, tous sont tous diplômés, obligatoires.
Obligatoires dans le sport, Et il y a une fédération française, ou alors comment,
Oui, absolument. Alors moi, j'ai l'avantage d'être arbitre international.
Ah oui, en plus.
Et donc, du coup, on a une fédération qui s'appelle la FMMAF, donc la French MMA Fédération, qui est sous tutelle de la boxe anglaise.
D'accord.
Voilà, on n'est pas encore indépendant.
Ouais, voilà, c'est ça.
On le deviendra peut-être en 2025, mais voilà, on est sous tutelle de la Fédération française de boxe anglaise. Et du coup, on met au point tout ce qui est les formations de juges, d'officiels, les formations pour être coach. On met en place les compétitions amateurs, on met en place les compétitions professionnelles, tous les événements. Là, c'est vendredi prochain, là, je vais arbitrer à l'ARES, qui est le plus gros événement de MMA français. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions maintenant en France. Rien qu'au mois de mars, il y a eu, 6 événements de MMA à travers toute la France, entre des compétitions amateurs et des compétitions professionnelles. Donc c'est vraiment, en pleine expansion, c'est énorme.
Et l'arbitrage, beaucoup sont intéressés par l'arbitrage parce que on sait que c'est pas facile, hein,
l'arbitrage
est toujours contesté, est toujours contesté.
L'arbitrage, surtout en MMA, faut avoir une bonne lecture.
Il faut tout voir, hein.
Faut avoir une bonne lecture, faut avoir beaucoup d'expérience. Ça s'invente pas comme ça. Mais bon, il y a des gens qui peuvent devenir aussi des futurs très 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 bons arbitres. C'est de la formation, c'est de l'entraînement, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Les formations seront là, elles sont là, elles sont en ligne. Donc après, il faut s'intéresser au site de la fédération et pas hésiter à aller poser des questions pour avoir un peu plus d'informations.
Est-ce qu'il y aura des compétitions qui seront organisées par votre club, par exemple dans le gymnase d'à côté, là, Marcel Cerdan? Et puis, est-ce qu'on va aussi ouvrir aux écoles?
Alors,
c'est la semaine olympique et paralympique.
Ouais, on est en train de voir ça justement bientôt. Ouais, on est en train de voir ça. Au mois de juin aussi, il y a
la fête du sport.
Il y a au mois de juin, il y a un truc aussi qui se fait. Et puis en septembre, on sera sur le forum des associations. Ouais. Voilà, des associations. On a travailler avec les écoles, pas encore, mais on est en train de. Alors, je travaille avec une école qui s'appelle Montessori. C'est une école privée où là, on leur fait plutôt une initiation de judo. Parce que c'est des enfants entre tout petits, ils ont 5 à 8, 9 ans. Et puis, on va mettre en place, en termes de compétition, j'aimerais bien mettre en place ce qu'on appelle, au niveau de la Fédération française de MMA, on appelle ça la MMA League, donc c'est une compétition amateur. Et j'aimerais bien mettre ça en place plutôt sur Carpentier. Parce que Carpentier,
c'est beaucoup plus grand encore.
Ouais, c'est plus grand parce que ce genre de compétition, ça peut ramener à peu près entre 200, à peu près 200 athlètes. Ouais. Donc c'est pas un petit truc. Ouais. Et d'accord. C'est sur 3 jours.
En plus. Allez, on marque une petite pause musicale. Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes.
Super l'accent.
Ouais. Oui, et toujours sur Mon Paris Sport, vous pourrez naturellement réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions précédentes. Alors, la semaine dernière, on avait parlé donc de Paralympique avec les organisateurs du et des prochains Mondiaux Paralympiques d'athlétisme. Est-ce qu'il y a des paras qui font aussi du MMA? Et ça sera la semaine de l'inclusion, justement, hein, la semaine
alors,
olympique et paralympique.
Pas à ma connaissance, oui. Parce qu'on est un sport tridimensionnel, donc c'est un peu compliqué. Après, tout va dépendre. Maintenant, j'ai, moi, dans l'ancien club que j'avais, Clément, atteint de trisomie, et vraiment extraordinaire, et il faisait à son niveau, à sa façon, il faisait les cours de boxe d'anglaise, des cours de boxe pied-point, il faisait du sol, il faisait un peu de MMA, et voilà, donc c'est vrai, c'était un peu notre petite mascotte, il était vraiment extraordinaire, donc il attend l'ouverture de la prochaine salle avec impatience. Et après, voilà, c'est sur ces formes d'handicap. On a eu aussi des jeunes qui étaient atteints plutôt d'autisme.
Oui, mais quand même.
Voilà. Donc, du coup, on a pas mal de choses qui permettent à des handicapés, peu importe leur handicap, de venir. Nous, ça ne nous pose aucun problème. Si après, eux, ça ne leur pose pas de problème et d'essayer de trouver des solutions, voilà, là-dessus, on est preneurs.
Le MMA, sport olympique, c'est envisageable?
Envisageable, je pense pas.
2028-2032
on sera vieux.
Ouais, mais enfin, bon.
Mais alors peut-être plutôt le grappling, ouais. Je le verrais plutôt bien, mais comme je te disais un peu en off, il y a une volonté politique du Comité international de l'Olympisme qui cherche à réduire toutes les adversités de contact.
Même la boxe, à un moment, était menacée. Il y a eu des catégories de boxe qui étaient menacées aussi.
Il y a la boxe qui a été menacée. Là, le taekwondo est parti.
Le karaté, champion du monde, qui a été retiré.
L'Olympiade, et puis...
Voilà. Et là, il y a les essais de la boxe thaï, par contre, ce qu'il faut voir en 2024. La boxe thaï et le kickboxing. À l'essai à Paris, donc ça va être intéressant, c'est bien d'avoir des champions, si on peut avoir, on a vraiment des grandes chances d'avoir des champions olympiques dans cette deux disciplines là. Maintenant, la volonté, c'est d'éviter d'avoir de l'adversité de contact. Donc ils veulent arrêter la lutte, ils veulent arrêter la boxe anglaise, ils veulent arrêter tout ça. Ils sont pour de l'adversité, mais avec un objet ou avec une distance. Donc, il y aura toujours du volley, il y aura du handball, il y aura du football, il y aura
tout ça.
Breakdance,
hein, là, il n'y a pas de...
Voilà. Ouais, là, c'est plutôt le côté artistique, etc. Ouais. Ils veulent aussi développer tout ce côté artistique, même comme le skateboard, etc. Mais après, pourquoi pas le BMX, pourquoi pas tout ça. Donc, voilà,
Le problème, c'est qu'après les jeux, ça ne durerait plus 15 jours, mais
ouais, voilà, c'est ça. Il faut faire des choix. Après, c'est des choix politiques toujours un peu.
Allez, on a commenté l'actu foot, on va commenter le restant de l'actu sportive, hein, et notamment le basket. Hein, on parlait de Carpentier, 27e journée du championnat. Le Paris Basket n'a pas joué ce week-end à Carpentier, mais a été très largement battu au Portel, 84-71. Par contre, Nanterre est allé s'imposer à Cholet, 86-80. Et puis, il y a eu un match choc, c'est Monaco-Boulogne-Levallois. Nette victoire de Monaco, 87-68. Monaco qui est en tête avec 80,8%. Devant quand même Boulogne-Levallois, 66,7. Donc 12e, Le Portel et Paris Basket à 42,3%. Et 14e, Nanterre, 40,7. Et 18e et dernier, donc Fos-sur-Mer, avec 32%. Qu'est-ce qu'on peut dire ces résultats? C'était le match choc. Ça va mieux pour Nanterre. Le Paris Basket se maintient. Et puis Boulogne-Levallois, le Dauphin de Monaco.
C'est confirmé hein, depuis le début de saison. C'est ce qu'on beaucoup voyait Boulogne en premier, normal avec un homme qui fait 2 mètres de 13, 15, on ne sait pas trop, même si dimension, Victor Wembanyama, c'était logique. Quand on voit cet alien, ce monstre arriver, comme l'appellent les Américains, on se doutait que ça allait finir au moins dans le top 3, et c'est le cas. Mais bon, Monaco a su résister tout au long de la saison. Puis il y a Monaco, je crois que sur leurs 3 confrontations, il y a 2 victoires de Monaco. Et encore là, une grosse victoire de Monaco qui... Franchement, les playoffs, on les attend avec impatience maintenant, parce que bon, on est sur la fin de la saison, on sait que plus grand chose va bouger, comme la NBA. Quoique la NBA cette année était très très serrée, donc très intéressant. Mais là, c'est vrai que pour le coup, la Big League Elite, on est un peu calme. Là, Paris va affronter Fos-sur-Mer, comme tu le dis, son dernier. Ouais. Ça sera plutôt simple. Enfin, en tout cas, on l'espère sur le papier. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri avec le Paris Basket. Mais logiquement, ça devrait terminer comme ça. Monaco, très très grosse saison de Monaco. Mais après, il faut confirmer en playoff, il faut aller gagner la Coupe.
Bien sûr. Alors, Loïc, le week-end prochain, si vous êtes dans le coin, il y a 2 rendez-vous importants. Il y a Paris FC Saint-Etienne à Charletti, et puis il y a Paris Basket Limoges, donc à Bercy.
Ah ouais, c'est sympa ça.
Ouais, ouais.
Bon, on sera à Bercy, nous, en tout cas. Et puis Paris FC Saint-Etienne, ça aurait pu être une affiche de Ligue 1 dans quelques années, mais Saint-Etienne a décidé de mal s'embarquer. Donc
non, mais c'est lui qui aime le sport, il peut aller au foot.
Ah bah dans le 13e arrondissement.
Et puis le basket, enfin, oui. Alors, justement, le basket, c'est un sport qui t'intéresse?
Je suis pas super sport. Mais je suis pas. J'ai fait les sports de combat à l'âge de 11 ans. Mm-hmm. J'ai jamais été sport co. À la rigueur, le seul sport co que j'aurais pu faire, que mon fils fait d'ailleurs à un haut niveau, c'est le rugby. Parce que il y a du rentre dedans, parce que moi j'ai toujours aimé un peu la bagarre. Et
on
donc,
en
du
parlera
coup,
beaucoup à partir du mois de septembre.
Si mon père m'avait dit, tiens, regarde, essaye le rugby, etc., je pense que j'aurais pu faire aussi toute une carrière dans le rugby. Mm-hmm. Mais j'ai été plutôt dans les sports de combat.
Tiens, justement, c'est intéressant. Ça canalise le MMA. Ça canalise la violence, ça donne des valeurs. Parce qu'on dit souvent, pour quelqu'un qui est un petit peu limite dans la vie de tous les jours, va faire un sport de combat.
On a les élèves qu'on mérite. Ouais. Toujours, ça, c'est un prof qui m'a dit ça il y a longtemps. Et en fin de compte, on va me dire que si tu es quelqu'un d'avenant, de protecteur, etc., peu importe le sport de combat que tu vas faire, tu vas avoir des élèves qui vont être comme ça. Si tu es un peu un con, tu es un prof un peu...
Tête brûlée ?
Non, il n'y a pas de tête brûlée. Après, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que quand le gamin il rentre chez toi, il ouvre ta porte, il faut lui montrer tout de suite les règles. Et puis les règles, il les respecte ou il les respecte pas. Après, voilà, il faut avoir du caractère. S'il les respecte pas, il dégage. S'il les respecte, il vient et puis il fait une belle carrière.
Ouais, c'est pareil, il y a un respect de l'adversaire quand on monte sur le ring. Hein. On salue l'arbitre, on salue...
Oui, toujours, ça c'est la base. C'est dans tous les sports de combat, c'est le respect. Ouais, ouais. Après, on fait un sport de combat, on doit mettre notre adversaire... On doit le battre. Maintenant, on a différentes formes de le battre. On peut le battre sur KO, on peut le battre sur soumission, on peut le battre au point, comme un match de boxe. Maintenant, on peut être copain avant, on peut être copain après, mais pendant le combat, on ne sera pas copain. Hein, ça sera comme ça.
Et il n'y a pas de provocation dans la vie de tous les jours, parce que des fois, on dit, tiens, lui, c'est un boxeur, je vais le provoquer.
Il y a eu la fameuse histoire John Jones, Cormier qui se sont croisés, qu'apparemment, il y a eu un échange. Mais c'est partie du show.
Ouais, ça fait partie du show, mais après, à notre niveau, non.
Non, mais dans la vie de tous les jours.
Non, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de... Après, il y a... Il y a aussi les fameuses fables, genre attention, je peux pas me battre parce que on va me retirer la licence, un peu comme dans les les bronzés au soleil. Mais ça existe.
J'en parle parce que il y a eu des cas de boxeurs. Il y a eu Pascal Gentil, on s'en rappelle, hein, qui était un champion de taekwondo. Qui a été une fois provoqué. Maintes fois dans des cafés, qui a été une fois provoqué et qui malheureusement n'a pas pu sortir une fois.
Ouais, mais après c'est pareil, c'est comme à l'époque, tout le monde voulait se battre avec Tyson parce qu'en se disant s'il met une droite, je vais pouvoir l'emmener au tribunal et puis gagner des millions. Des millions de dollars, c'était un peu ça, quoi. Donc après, ça dépend un peu de la notoriété qu'on a, quoi. Mais faut savoir raison garder, quoi.
Pascal Gentil.
Comment ?
Faudra nous le faire venir, Pascal
Gentil. Bah, je crois qu'il vit en Chine, donc c'est un peu plus compliqué.
Ah oui, d'accord, c'est compliqué. Il est parti en Chine, d'accord.
Après, il est peut-être revenu parce qu'il s'est lancé dans la politique. Je crois qu'il s'est lancé dans la politique d'ailleurs, mais il est peut-être revenu sur Paris, mais il a vécu longtemps en Chine.
Mais moi, je l'avais croisé dans un match de foot au Stade de France.
Tu l'avais regardé comme ça ?
Ouais. Voilà. Allez. On continue l'actu de ce week-end avec un chaotique Grand Prix d'Australie, très mouvementé. Il y a eu 3 drapeaux rouges, Valentin.
Ouais, c'est une première dans l'histoire. 3 drapeaux rouges, 3 relances de course. Moi, je suis un fan du spectacle et beaucoup de directeurs d'écurie comme Red Bull ou Mercedes ont dit que justement c'était une bonne chose d'avoir relancé parce que les spectateurs sont là pour voir du spectacle. Donc, avoir terminé sous safety car, c'était logique. Le dernier tour, on l'a fait, voilà, tout le monde s'est suivi, tout le monde a fait le petit train-train, le classement n'a pas bougé. Mais comme tu le dis, Philippe, un chaotique Grand Prix d'Australie à 7h du matin.
3 fois, ouais.
À 7h du matin, il fallait se lever, mais pour ceux qui se sont levés, il y a le replay, hein, mais moi je l'ai regardé en direct, et je peux vous dire qu'à 8h45 du matin, quand tu vois 3 relances, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe. Week-end compliqué pour les fans de Ferrari et Charles Leclerc dès le troisième virage, de gravier, donc il finit son week-end comme ça alors qu'il partait 7ème, ce qui était déjà un petit peu décevant, mais il avait quelque chose à faire. Carlos Sainz s'est exclu des points pour avoir à la 2ème relance de course vers la fin avoir mis Alonso, son compatriote espagnol, dehors, mais du coup il prend 5 secondes de pénalité et que puisque tout le monde se suivait un peu comme un train-train à la fin, 5 secondes, tu te retrouves hors du classement. Ils ont quand même fini à... J'ai le classement sous les yeux. Il y a eu 12 abandons dans ce Grand Prix. C'est
énorme, tous les accidents qu'il y a eu.
Les deux Français de la même écurie qui sont au premier virage.
Ils ont fini à 12. Et oui, les deux Français, c'est comme tu viens de le dire, un week-end très compliqué pour les Français en sport automobile. On a en IndyCar, par exemple, notre ami Romain Grosjean qui se battait jusque dans le dernier tour pour enfin une première victoire en IndyCar qui se retrouve dans le mur, dans l'ovale du Texas, donc abandon. Victor Martins, qu'on attend en F1 l'année prochaine, qui est en F2 cette année, avec ART, a un problème moteur technique, abandon. Et on a Ocon et Gasly dans notre équipe française chez Alpine, qui, mais franchement, ils l'ont bien dit, aucune pénalité pour aucun des deux pilotes, c'est un accident de course. Ça aurait pu être n'importe qui.
Il n'y a pas de vache entre eux, quoi.
Heureusement, c'est ce qu'on avait peur, parce qu'on sait que depuis tout petit, est-ce que certains, peut-être comme moi, attendent un peu, parce qu'on va voir comment ça va se passer le reste de la saison, parce qu'il y a quand même une compétition entre ces deux, et c'est normal.
On a connu les duels pour Senna, mais enfin, ça se
passe.
Et en plus, oui, c'est ça.
Je sais pas, j'ai vu les images, je me dis, mais le mec, il est con, quoi. Enfin, je comprends pas.
C'est qu'en gros, troisième relance, il y a un peu tout le monde qui. On va pas se mentir, au bout de la troisième relance, je pense que tout le monde est un peu, même si on peut essayer de garder le sérieux, t'es un peu. Voilà, ça se passe en quelques demi-secondes. Pierre Gasly se retrouve un peu à l'extérieur dans l'herbe. Il veut revenir sur la piste et il glisse parce que le capital pneu, donc les pneus sont fatigués. Il y a 55 tours dans les dents et puis ça se passe en une dizaine de secondes. C'est déjà arrivé avec Ocon, avec d'autres coéquipiers, avec Perez notamment chez Force India il y a quelques années où il était au même niveau, roue arrière. Ils ont eu le même accident à Singapour. Et là, tout le monde, il y a beaucoup de camps. Un coup c'est Gasly, un coup c'est Ocon, mais Gasly s'est excusé parce que. Il n'a pas le temps de le voir, mais c'est vrai qu'il ne fait pas le geste non plus. Ocon ne ralentit pas non plus parce qu'il avait déjà pris l'extérieur. C'était inévitable. Et malheureusement, ça arrive sur les deux Français dans la même écurie en même temps.
Le directeur de l'écurie doit être ouf.
Donc, on finit avec Verstappen encore une nouvelle fois.
Un deuxième Grand Prix sur 3 cette saison encore. Hein, voilà.
De quoi ?
Verstappen, deuxième victoire sur 3 depuis le début de saison.
C'est ça, c'est parce que Perez avait gagné juste avant à Jeddah.
Il est en tête 69 points et Perez deuxième. 54
c'est
points.
Ça. Ouais. Et Lewis Hamilton qui remonte sur un podium. Il était déjà remonté sur un podium, mais ça fait du bien de le voir deuxième.
Valentin, il y a quand même un fait historique, c'est qu'il y a 3 champions du monde sur le podium.
Oui, parce que derrière nous avons notre ami Fernando Alonso, champion avec Renault en 2005 et 2006.
Je crois qu'il y a 11 titres
Oui, cumulé, ouais. On va deux titres
pour Verstappen. Ça, c'est historique aussi.
Bah,
hein.
T'as deux titres pour Verstappen, 7 pour Hamilton, et, t'en as 2 pour Fernando Alonso. Ouais. Donc,
ça a vraiment été un grand prix fou.
Ah,
bah,
ça a été. Quand on se retrouve avec certaines personnes, comme on pense à McLaren, quand on voit Lando Norris ou Oscar Piastri qui marque ses premiers points en Australie chez lui, alors qu'ils sont chez McLaren, qui est une écurie historique en F1, mais qui sont dans une difficulté la plus totale. Ils devraient finir hors des points, et là, ils se retrouvent dans les points. C'est comme je le dis, quand tu as 10 ou 11 abandons dans la même course, c'est qu'il se passe tellement de choses.
Oui, et trois arrêts, un podium avec que des champions du monde. Oui, ça a été
par
vraiment.
Contre, à un moment donné, tu as dit Carlos Sainz, c'était le pilote de rallye, c'est ça? Il est passé en F1?
Non, en gros, il y a Carlos Sainz, son père.
C'est son fils.
Ah, c'est le fils.
En fait, les deux s'appellent Carlos Sainz. Ouais. Et ouais, c'est le problème.
C'est son fils.
Ah ouais, parce que je
c'est
me dis,
fils.
Putain, Carlos Sainz, il n'est pas tout jeune. Il tape en F1.
Ouais. C'est son fils.
Carlos Sainz,
c'est Junior. Carlos Sainz Junior.
C'est ça, Carlos Sainz Junior. Mais en fait, oui, Carlos Sainz, son père aussi continue d'ailleurs le rallye. Il a encore gagné le Dakar il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Et oui, effectivement, il y a une très bonne série sur Fernando Alonso dans Prime Video. On voit les deux. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir Carlos Sainz et Carlos Sainz Junior pendant tout le truc. Et tu, des fois, Fernando Alonso parle de Carlos Sainz sans dire senior ou junior, du coup t'es un peu perdu, tu te dis de qui il parle, mais oui, effectivement, donc son fils est en sympa. Formule 1 aussi, donc voilà.
Alors, chez les constructeurs, donc Red Bull naturellement en tête, 123 points devant Aston Martin de 65 points. Le prochain Grand Prix, c'est je crois le 23 avril,
c'est dans longtemps. On sera à Bakou en Azerbaïdjan, Ferrari, Leclerc, que 6 points, donc très très compliqué le début de saison pour Ferrari, mais on espère que ça va s'arranger pour la suite. Encore une fois, il avait dit que c'était le meilleur week-end qu'il avait fait depuis le début de saison. Malheureusement, au bout de 3 virages, la qualification 7e, 3 virages, tu finis dehors. Il a tenté, c'est le jeu, mais comme les deux Alpines, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Mais il faudra retenir quand même d'Alpine qu'ils avaient un très très bon rythme ce week-end. Ils étaient vraiment au-dessus de leur capacité réelle avec la voiture. Pierre Gasly il se battait pour la 4e place pendant tout le Grand Prix, donc, alors qu'il partait 9e. Donc franchement, il y a du bon pour Alpine pour la suite. Et ils vont laisser cette voiture rose qui est tout simplement ignoble à une voiture bleue et rose qui est beaucoup plus jolie dès le prochain Grand Prix. C'était leur partenaire. BWT qui avait en gros, s'il leur imposait pendant 3 Grands Prix d'avoir une voiture rose, ça fait 2 saisons qu'ils ont ça ce contrat. Et on va pas se mentir, la voiture bleue et rose est 10 fois plus belle. Et on espère voir aussi Zidane qui est devenu ambassadeur de l'écurie à Monaco ou à Bakou.
Je pense qu'il
est devenu ambassadeur depuis cette saison historique d'Alpine. Donc on espère le voir de plus en plus.
Allez, on quitte l'Australie, on va à l'autre côté du globe, en Argentine. Il y avait le Grand Prix moto. Donc, et là, c'est une victoire quand même de l'Italien Bezzecchi devant Zarco, le Français. Quartararo termine 7e. C'est pas son début de saison. Pour l'instant, Bezzecchi en tête. 50 points devant Banaya qui est tombé, 41 points, 3e, et Zarco donc qui est 2e avec 41 points. Zarco 3e, 35 points. Quartararo lui n'est que donc 16e avec 18 points.
Ouais, Quartararo comme Charles Leclerc qui l'année dernière était un peu, ils étaient au-dessus de tout le monde, qui a un peu de difficulté depuis la perte du titre l'année dernière face à Francesco l'Italien. Moi j'aimerais qu'on donne un peu plus de crédit à Johan Zarco, qu'on a beaucoup mis de côté parce que c'était le troisième français en MotoGP, ou une époque le deuxième, voire une époque le seul, et on était un peu, oui il finit 16e, 10e, un peu le pilote qu'on regarde pas trop. Et là franchement, dans le dernier tour, il arrive à prendre la deuxième place juste dans le dernier tour, dernier virage, donc c'est exceptionnel. Le Grand Prix juste avant, il finit 4e. En 2 Grands Prix, 4e, 2e, ça annonce du très très bon pour le suite de la saison. Donc j'espère vraiment que ça va continuer sur cette lancée. Et Quartararo, 7e, c'est quand même, franchement, c'est le meilleur qu'il puisse espérer. Il partait quand même 14e. Et 14e, 7e, il s'en est passé des choses. Il le dit encore qu'il a encore beaucoup de mal à comprendre sa moto et à comprendre le nouveau système de la MotoGP qui impose des courses race, donc sprint. Donc en gros, c'est des courses réduites et c'est pour donner plus de spectacle. On a ça aussi en Formule 1. Ouais. Et c'est une erreur totale parce que c'est sur 20 tours, tu te qualifies, tu fais la course sprint et en fait, tu perds presque tout. Tu peux perdre tout en une course de 20 tours alors que tu avais toute une stratégie pour 50 tours. Ça pose débat et la MotoGP a décidé de faire ça sur chaque Grand Prix. Donc ça va être, Fabio n'est pas content de ce format, il l'a bien dit, il déteste ce format. Ouais. Donc il va passer une très très mauvaise saison. Donc compliqué, mais comme je le disais, encore une fois, les Français... MotoGP un peu mieux quand même, mais la petite lot de consolation pour Fabio, même si c'en est pas un, parce qu'on ne veut jamais ça, mais de voir Francesco qui l'année dernière était intouchable, a enfin chuté en quelque sorte, mm-hmm. donc ça, c'est déjà encourageant mm-hmm. pour la suite. Mais Johan ouais. Zarco a suivi cette saison, vraiment très intéressant.
En tout cas, les Italiens, ils ont le vent en poupe, hein. Ça a toujours été un grand
pays. Italiens, Espagnols, ouais. il y a 5 Espagnols ouais, en ouais, MotoGP, ouais. C'est énorme, c'est énorme. Et des Italiens, il y en a, je crois, 6 ou 4, mais c'est déjà, voilà, nous à côté, on a 2-3 pilotes, on est déjà très contents. Et là, ceux qui arrivent, il y a 8, en MotoGP 2, il y a 8 Espagnols. Donc oui, c'est, ouais, c'est juste stratosphérique en fait. Ouais.
En tout cas, prochain Grand Prix, je crois que c'est dans 15 jours hein, pour la
c'est
moto.
C'est ça, comme voilà. la moto.
Alors, s'il y aura 30 000 donc, personnes qui viendront dans Job Lag, hein, comme on a dit tout à l'heure, il y avait 52 000 concurrents et concurrentes hier au 46e marathon de Paris. Ouais. Hein, et on va rappeler quand même énorme. Que c'est Aleye Ayana, l'Éthiopien, qui s'est imposé en 2h07 minutes et 15 secondes devant son compatriote Guy Adola, 2h07 minutes 35 secondes. Et le troisième, eh bien, c'est un Kenyan, Boyd, en 2h07 minutes 40 secondes. On va quand même rappeler que Mehdi Frère, le français, est 10e en 2h11 minutes et 5 secondes. Et puis chez les femmes, eh ben, on a eu quand même une superbe course, hein, puisque ça s'est fini au sprint. Ella Kirop, donc Kiprop, pardon, la Kenyane s'impose en 2h23 minutes 19 secondes sur le fil. Hein. Elle bat donc l'Éthiopienne Amout, qui est battue au sprint. Mmh. Et puis Firke Verreta, l'Éthiopienne, elle aussi termine 3e en 2h23 minutes 22 secondes. Il y a eu donc Anaïs Kemener, qui est 12e et première française en 2h47 et 2 secondes. Et Latifa Motkari, donc 13e en 2h47 minutes et 49 secondes.
Dans tous les cas, je ne fais même pas un des temps que tu viens de dire. Là. Moi, je fais ouais, vraiment, non, laissez-moi 6h.
Le grand public, quand même, il faut voir comment
ouais,
il court. Hein.
Ah, ouais, c'est
pour ça que c'est important.
Il faut que les gens ils arrivent parce que ouais. quand on parle de ça, on dit ouais, le gars il a fait ça en 2h07, c'est-à-dire qu'il court.
Il court et encore, en moyenne. C'est pas l'édition la plus rapide.
Non, ouais. parce que ça a été 2h03, je crois.
Ouais, ouais. Ouais.
Et il court en 20 km/h. Donc, vous essayez, même les jeunes, là, vous essayez, vous prenez une trottinette là, en location, vous mettez dessus et vous dites à un copain bah, vas-y, tu fais un tour à 400 mètres comme ça. Ouais. Moi, je suis avec la trottinette et toi, tu cours à côté.
Ouais, pendant 42 bornes. Hein.
Ouais, déjà sur 400 mètres. Même si tu es jeune, déjà, etc., sur 400 mètres, 20 km/h, déjà, tu souffres. Et là, le mec, il fait ça sur. 2 heures et sur 40 bornes.
Ah ouais.
Mais c'est pour ça que c'est les gens, ils arrivent. Enfin, voilà, il faut arriver à relativiser, c'est la vitesse, quoi.
Ils sont un peu en mode j'aurais pu faire mieux. Ouais. Ah, tu aurais pu faire mieux. D'accord. Bah, moi, je n'aurais pas pu, en fait, tout simplement faire cette performance.
Donc, et j'ai vu à la télé hier le doyen 93
oui,
ans.
Oui, ouais, j'ai vu le stade 2, moi. J'ai vu le stade 2.
Doyenne, pareil, elle avait.
Ça prouve que tout le monde peut faire du sport. Il faut juste se donner les moyens, le courage.
Il a découvert le sport tard, 50 ans.
Ouais, non, mais comme beaucoup d'ailleurs. Et la nana, la dame, elle avait, je crois, c'était son 40e ou un truc.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça.
Ouais. En tout cas, super. Et puis, très belle course féminine. Hein, où, donc, celle qui vient gagner était cinquième à un moment sur la fin. Elle a doublé tout le monde.
Ah ouais, non, mais historique. Franchement, un week-end très intéressant dans les paris. Mmh. Ça change.
Très beau week-end de sport. Merci en tout cas. Donc, Loïc, il y a un petit quelque chose à rajouter, non ?
Non, écoutez, bah, je vous attends. On va se revoir de toute façon dans le 13e. Et puis, je vous attends nombreux dans la salle. On va se retrouver sur les forums
internet,
des Anciens.
Bientôt.
On a une adresse, hein, contact@thefullforceacademy.fr.
Mm-hmm. Puis
voilà, on a le Instagram avec le Instagram, c'est surtout avec Instagram on fonctionne très très bien là-dessus. Et puis on s'y est informé de toute manière avec la mairie du 13e, tout le monde aura des informations, on va se voir sur les différentes opérations que la mairie du 13e fait. Donc on va se revoir nombreuses et nombreux.
Et tu reviens quand tu veux. Hein.
Ah bah avec grand plaisir, on est voisins. Donc parler de sport, moi ça me plaît.
Moi
j'adore. Puis là, je suis étonné parce que je vois des.
Émission de tous les
Je vois
sports,
des jeunes là, ils sont au taquet, ils connaissent
rêve,
tout
hein.
là, machin, la moto, la F1 et tout. J'étais là, Carl Hansen, je me dis, tiens, c'est.
Nous, on leur offre des portes, des voix.
Et puis ils sont pleins, ils parlent bien et tout. Franchement, ça fait plaisir. RMC, l'intérêt, se tenir à carreau.
Voilà. Merci à Jason Egay d'avoir été donc encore ce soir aux manettes de cette émission, hein, côté technique. Et puis nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, il y a un petit week-end de repos, c'est pas
ouais, que... ouais. Donc, je voulais juste rajouter
on
un truc.
On revient dans 15 jours.
Un grand merci à Heyman, l'adjoint au sport. Franchement, vraiment grâce à lui et à son assistant, son délégué Kylian, qui nous aide beaucoup sur ce projet-là. Merci beaucoup.
Allez, mise au point. Cette fois-ci, c'est pas de l'anglais. On termine avec Jackie Quartz. Bonne soirée et rendez-vous dans 15 jours. Salut.
Au revoir.
Salut.
c'est l'heure où les souvenirs se ramènent. Juste quand le sommeil se met en grève, le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Il y a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème. Je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Sur les clichés trop pâles d'une love story. Sur l'état d'âme d'une femme sans alibi qui rêve toutes ses nuits. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie. Pour tous les fous, les malades de l'amour. Pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Juste un petit clin d'œil, une mise au point. Nos vacances au soleil, sous les UVB, dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent « je t'aime ». Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde. La rue des Bernardins, le square Gambetta. Nos crises de fou rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, notre premier rendez-vous dans un nightclub désert. Avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Sur les clichés trop pâles.
Yeah.